When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
NoWatch.fm.
Incredible web shows.
Cette émission vous est proposée avec la participation de Numéricable. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2011 et c'est l'épisode numéro 57. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on parle toutes les deux semaines de toute l'actualité tech, internet et gadgets, l'émission qui parle à tous ceux qui utilisent toutes ces belles choses et pas que aux experts. Mais ça n'empêche pas qu'on a des experts et des invités de marque aujourd'hui. J'ai pour la première fois l'honneur d'accueillir dans cette émission Siegfried Touvenot, comment vas-tu, Mister Captain Web?
Eh ben écoute, salut Patrick, ça va. Je sais pas si le terme expert est vraiment adapté.
mais si. Dis rien, on fera comme si et puis ça passera.
Ouais, voilà. Ouais. Je vais lire les articles de ZDNet pour l'enculé.
Voilà, oui. On est organisé, on a tous les sujets dans un document Google et tout, c'est bien fait. Donc merci d'être là. On parlera un petit peu de ton émission à la fin de cet épisode, mais je veux quand même prévenir les auditeurs du Rendez-vous Tech et du Captain Web que, bon, j'espère que les choses vont bien se passer.
Hein, t'es pas de façon explicite sur iTunes?
Non, justement. Donc attention, on n'est pas chez le Captain. Bien sûr, le Captain fait une émission tous les mardis en live assez tard, et elle est un petit peu différente de ce qu'on fait ici.
Donc,
à peine. mais donc, je suis très heureux de te recevoir. Merci beaucoup d'être là.
Merci à toi de m'avoir invité.
Avec plaisir. Et on a aussi une voix que vous connaissez déjà, mais qui est là en vrai. C'est Guillaume de la Statosphère qui nous rejoint pour la première fois. Merci à toi d'être là, Guillaume.
Salut Patrick.
Alors, pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, t'étais un petit peu stressé, tu me disais avant l'émission. Ça va bien se passer, t'inquiète pas. Détends-toi, mets-toi
d'accord
à l'aise.
Je vais essayer de vous abreuver de chiffres.
Voilà, c'est le but aujourd'hui.
je vais essayer de pas trop vous abreuver de chiffres.
Justement. Mais parce que pour ceux qui ne le savent pas, toi, pour le coup, tu es un vrai statisticien qui connaît des choses. C'est pas juste que tu envoies des chiffres au hasard pour l'émission.
Je suis consultant statistique et puis je suis aussi indépendant et puis je suis aussi consultant web analytique en tant que salarié d'une agence web.
D'accord.
Ouais, donc,
pardon ?
Ça plaisante pas.
Voilà, exactement. Donc ça veut dire que en gros, si on dit une bêtise, Captain, on va se faire reprendre tout de suite.
J'ai l'habitude de me faire reprendre avec mes camarades, donc ça changera pas grand-chose.
Non.
Bon, en tout cas, merci à tous les deux d'être là. Merci à la chatroom d'être présente aussi. Il y a beaucoup de cœurs vers le Captain, de petits cœurs dans la chatroom. C'est très gentil à eux de le soutenir parce qu'on sait qu'il doit être un petit peu stressé quand même lui aussi d'être là. Parce qu'il se dit, ça veut dire que je ne vais pas pouvoir parler de poney et de trucs du genre. Ça va être dur. Essaye. C'est juste une heure et demie. C'est juste une heure et demie, Siegfried.
Je me lâcherai après. Je vais attendre.
Ok, bon bah écoutez, je pense qu'on va se lancer dans l'émission, on a plein de choses à évoquer et plein de choses, bah, comme d'habitude on va parler de un petit peu d'Apple, de Google, de Facebook, je crois qu'on a un sujet Facebook, mais c'est une émission un peu spéciale parce que c'est sans rapport, mais en fait dans le blog de l'émission sur nowatch.net, il y a des gens qui sont venus mettre des commentaires, merci à eux, et certains nous disaient oui, vous parlez généralement souvent des mêmes sujets, et c'est vrai, hein, on a souvent les gros sujets de l'actualité, et c'est, on n'a pas fait exprès, on choisit pas l'actualité, et il y a plein de sujets cette fois-ci aujourd'hui, donc ça risque d'être des sujets plus courts, mais on va en abattre beaucoup plus. J'ai eu beaucoup de mal à sélectionner les sujets principaux, donc on risque d'aller un peu plus vite sur certains trucs. J'espère que ça fonctionnera tout de même.
C'est 3 heures d'enregistrement, c'est ça?
Non. tu ne mourras pas. Ça ne marchera pas deux fois.
T'as déjà dit ça la dernière fois que t'es venu. On ouais, est fini à 6h du matin.
Oui, j'étais. Ceux qui ne le savent pas, j'étais dans l'émission du Capitaine il y a quoi, deux mois, trois mois, un peu plus. Hein.
Oh, tu plaisantes, c'était plus que ça. C'était en juin dernier.
Déjà.
Et ouais,
comme le temps passe, ma bonne dame. Et on a fini à 5h. J'ai pris le métro en rentrant. Et en arrivant, je disais, ouais, moi je partirai vers minuit. Non, rien du tout.
Bah non,
Et on commence avec une excellente nouvelle pour les fans d'open source, puisque le navigateur Fireforce, ça serait pas mal ça.
Comme j'avais compris autre chose. Fireforce, ouais.
Firefox 4 est enfin sorti. On en parlait depuis longtemps avec Mister Nito, notamment dans cette émission. Il est sorti il y a une petite semaine. Il a fait, même pas, il y a quelques jours, il a fait un super gros score de download, hyper impressionnant. Il est super rapide, un peu plus sur certains trucs que Chrome même, qui est, vous le savez, mon navigateur de choix. Et donc, tous ceux qui sont encore sur Firefox 3, mettez à jour sur Firefox 4, ça va vous changer la vie. Vous l'avez essayé tous les deux ?
Ouais, j'ai été chargé aujourd'hui justement, et écoute, j'ai pas trouvé de raison de retourner dessus, je suis toujours sur Chrome. Mais c'est vrai qu'il est rapide, hein. Il est peut-être aussi rapide que Chrome d'ailleurs.
Ouais.
Je l'ai téléchargé également aujourd'hui, et puis là je suis en train de le tester seulement depuis une petite heure, et puis je trouve que c'est sympa, ça a l'air effectivement un petit peu plus rapide. Ça va droit au but. On sent qu'ils se sont inspirés de Chrome.
Ah, mais ils ont vu ce qui marchait, ils ont purifié le truc. Il y a des fonctions sympas, genre, je ne sais pas si vous avez vu, mais on peut faire des groupes de tabs. Si on a plusieurs groupes de trucs sur un même sujet, genre, je ne sais pas, au hasard, hein, je parle d'expérience, vous cherchez des composants pour monter votre nouvel ordinateur et à côté, vous avez vos trucs habituels, genre Gmail, Twitter, Facebook, ouverts. Et ben, vous pouvez faire deux groupes différents et basculer de l'un à l'autre sans avoir besoin d'avoir deux fenêtres différentes. C'est pas mal foutu.
J'ai pas essayé, mais j'en ai entendu parler.
Donc très rapidement, hein, c'était juste pour le signaler. Mettez à jour, ça vaut vraiment le coup. Et puis à partir de maintenant, il se mettra à jour tout seul comme Chrome, donc vous n'aurez plus à vous embêter à le mettre à jour régulièrement.
Le point impressionnant que je voulais dire, c'était que en seulement 48 heures, ça a été téléchargé quand même 16 millions de fois.
Ouais. Plus que IE9 en fait, une semaine je crois.
Ils ont fait toute une fête avec le compteur qui montrait le nombre de fois qu'il était téléchargé, des courses entre l'Europe et les États-Unis. C'était marrant, c'était bien foutu. Ouais.
C'était pas le nombre de crash système ?
Non, je crois pas.
Ah, okay.
Ça serait un autre compteur. C'est plutôt du côté de Microsoft ce genre de compteur en fait. Vous avez vu qu'ils ont fait, je sais plus si on en avait parlé, mais ils ont fait un compteur pour se débarrasser de Internet Explorer 6.
Ouais, ils savent plus quoi en foutre, hein, c'est un peu. C'est le cadavre dans le placard, quoi.
Donc, pour Firefox 4, vous l'aurez compris, il faut se précipiter dessus. Grosse info. Mais d'ailleurs, je ne l'ai même pas mise dans la liste. Je voulais parler de Colors. Color ou Colors, je ne sais plus. Qui est une app qui est sortie sur iPhone il y a une semaine et qui a fait un foin pas possible. Écoutez, parlons-en maintenant. Est-ce que vous savez ce qu'est Colors ?
Alors, c'est un truc communautaire un peu à la...
Il y a quelqu'un qui tape, qui va furieusement essayer de trouver l'application.
C'est pas mal. J'en ai entendu parler, mais honnêtement, pas plus que ça.
Je vais vous expliquer. C'est un truc qui est très intéressant. La raison pour laquelle ça a fait énormément de bruit, c'est que c'est une start-up qui a été financée à hauteur de 41 millions d'euros. Alors qu'elle est même pas encore vraiment, elle était même pas vraiment lancée. Bon là, elle est lancée, mais elle a qu'un seul produit. Et le produit en question, c'est une application de réseaux sociaux de partage de photos, qui est vraiment particulière parce que elle partage les photos automatiquement avec les gens qui sont à côté de vous et qui, selon la promesse du produit, partagent les mêmes intérêts que vous, ou du moins avec lesquels ils réussissent à vous recouper. Donc, quand vous lancez l'application, il vous dit quel est votre nom, ok, je rentre mon nom, prenez une photo de vous, ok, je rentre une photo, et là, tout de suite, automatiquement, la photo est partagée. Et vous pouvez voir autour de... dans la liste des photos, s'il y a des gens à côté de vous, ils vont automatiquement voir votre photo, et vous allez automatiquement voir leur photo. Et il y a des procédures de recoupement qui font, des trucs du genre, ils écoutent en même temps le son qu'il y a au moment où vous prenez la photo. Et si, par exemple, vous êtes dans le même bar et que le même bar que quelqu'un d'autre, ou dans une soirée, ou dans une boîte, ou ce que c'est, peu importe, il va vous montrer les gens qui ont le même son que vous, qui écoutent la même chanson. Donc, il a différents moyens pour recouper les connexions. Et la raison pour laquelle... Alors, le truc, c'est que tout le monde, la sphère technophile entière s'est dit « Mais mon Dieu, bulle Internet, qu'est-ce qui se passe? 41 millions, c'est n'importe quoi, qu'est-ce qui se passe ?» Mais il y a plusieurs raisons pour lesquelles elle a été évaluée, enfin, elle a été financée à cette hauteur. D'une part, ce sont des gens très capables qui ont lancé cette, qui ont créé cette société. Il y a des gens de le fondateur de Lala, qui a une société de stockage de musique en en ligne, qui a été racheté par Apple, qui risque de transformer ça en service propriétaire. Il y a un type de LinkedIn, il y a des gens vraiment capables. Donc déjà, au niveau de leurs compétences, ils ont énormément de confiance des investisseurs. Mais surtout, et avant tout, alors avant de dire le pourquoi du comment, je vais déjà vous demander, a priori comme ça, vous, ça vous intéresse ce type d'application, enfin une application décrite comme ça ?
J'ai tellement d'applications à la con sur mon Android que pourquoi pas, quoi. C'est sur Android ou sur iPhone uniquement pour l'instant?
C'est les deux.
Les deux, d'accord. Ouais. Bah écoute, pourquoi pas, ça demande à être testé, quoi. Mais je sais pas, c'est localisé, donc c'est géolocalisé et en plus c'est localisé dans le temps, donc.
C'est, ouais, dans le temps, géolocalisé et d'autres choses dont il parle pas vraiment, mais qui sont censées être aussi assez spécifiques pour recouper, quoi.
Pour choper ta gonzesse, ça peut être intéressant.
Ça me rappelle certaines fonctionnalités de Flickr. Je serais pas surpris que ça soit racheté par Yahoo ou Google avec Picasa ou ouais. Compte tenu du fait que c'est quand même très proche de ce que Flickr propose au niveau des recoupements, justement. Il y a des fonctionnalités pour retrouver des photos en fonction de leur couleur. Bon, là on a carrément des recoupements en fonction des thématiques, donc c'est vraiment très bien, ça a l'air très bon. Moi, je vais me dépêcher de la télécharger pour pouvoir tester ça. Et puis surtout, c'est encore compatible avec un iPhone 3G.
Parce que
je commence un petit peu à être fâché avec mon iPhone.
Ouais.
Donc voilà.
Ben, en fait, l'une des raisons pour lesquelles cette boîte a fait tellement de bruit, c'est qu'il n'y a pas que le gonflage du buzz de Color. Il y a aussi une promesse qui est vraiment, vraiment intéressante. D'une part, quand on part de ce principe, qui est un petit peu nouveau quand même, le partage automatique, on arrive à des conséquences auxquelles on ne pense pas forcément. Et notamment l'idée que ça peut vous permettre de connaître un petit peu vos voisins, par exemple. Vous pourriez être... aujourd'hui, c'est partagé à 50 mètres. Ça va être réglé très vite pour s'adapter aux conditions. Mais vous pouvez, par exemple, voir des images marrantes de certaines personnes et sans jamais les avoir rencontrées. Et puis, un jour, le croiser dans la rue. Et là où vous seriez passé l'un devant l'autre sans vous arrêtez, vous pourriez dire « Ah, c'est vous qui aimez le modélisme ou qui machin, qui jouez tout le temps à tel truc sur votre console. » Ou tu vois, ça peut créer des connexions là où on n'aurait eu aucune raison de se connecter avec une autre personne avant.
Il faut bien aimer ses voisins, quoi, parce que si tu t'entends mal avec eux, par contre, ça merde un peu.
Bah, mais justement,
c'est toujours la même chose, il va y avoir besoin de beaucoup de personnes qui utilisent l'application pour que ça devienne vraiment intéressant.
Exactement.
Ouais, c'est toujours le problème de genre de réseau.
Bah, encore plus là qu'ailleurs, parce que là, c'est uniquement... D'ailleurs, ils vont modifier la version l'application pour vous interdire de l'utiliser quand vous serez seul. Parce que là, c'est vraiment basé, c'est même pas sur une localisation que tu vas partager à des gens qui sont pas là. C'est que si t'as personne autour de toi, ça ne sert strictement à rien. Donc, il faut vraiment que plein de gens se mettent à l'utiliser. Mais l'autre énorme potentiel qui est intéressant, c'est que, et là, ça va intéresser énormément de gens, et quand tu disais, Guillaume, peut-être Flickr ou Yahoo, c'est que le grand principe qui sous-tend cette application, c'est l'idée de construire des réseaux sociaux sans avoir à construire soi-même la liste de personnes dans son réseau. Tu vois, c'est qu'ils sont en train de développer des techniques pour que automatiquement les connexions qui font sens soient créées sans que toi, tu aies à lister les gens que tu voudrais suivre. Alors, ça a des avantages et des inconvénients, mais c'est un concept qui pourrait être hyper, hyper intéressant si ça fonctionne vraiment. Dans la chatroom, on nous dit qu'ils démarrent ça dans les universités, ça ne va pas marcher partout, mais il y a vraiment des potentiels qui pourraient fonctionner. Vous imaginez, vous partagez un truc et vous voyez sans avoir à faire vos listes les trucs qui vous intéressent, ça serait vraiment pas mal, quoi.
C'est éloigné d'un Facebook hein, où là on est censé avoir des amis qu'on connaît, mais je sais pas, est-ce que ça permet de rencontrer d'autres personnes? Je suis pas convaincu, quoi.
Je sais pas, peut-être, tu sais, moi il m'est arrivé de rencontrer des gens que j'ai rencontrés par Twitter uniquement, donc pourquoi par d'autres types de connexions, quoi.
Disons que si on va à une manifestation, une grosse manifestation style la Japan Expo et qu'on est entouré de milliers de personnes et qu'il y en a ne serait-ce que quelques dizaines qui ont l'application, ça peut très vite devenir très intéressant.
Bah exactement.
Et mettre le feu à ton iPhone.
Ben oui, non, mais c'est ça, parce que les services de localisation sont hyper populaires en ce moment, mais il faut quand même suivre les gens. Donc, pour que tu suives les gens qui sont quand même à la Japan Expo et qui... Alors oui, il y a des systèmes de tags et des machins comme ça, mais là, il y a un potentiel. Et bon, et l'autre truc, c'est que 41 millions, ils sont tranquilles pour 2 ans, donc ils peuvent développer leur truc petit à petit, et ils n'ont pas besoin de courir après l'argent tous les six mois pour vouloir grandir. Et c'est deux techniques de construction de start-up qui sont toutes les deux valides. Donc bon, c'est sûr que c'est un énorme investissement, hein, c'est pas n'importe quoi, mais il y a des raisons derrière. Est-ce que ces raisons sont justifiées? Bon, on verra, mais en tout cas, c'est pas aussi fou qu'on peut le penser à l'origine en se disant 41 millions dans un truc qui c'est juste pour partager des photos avec les gens autour, c'est un peu plus que ça, quoi.
Quand tu vois le succès d'Instagram, tu te dis que de toute façon, il y a des choses à faire. Quoi,
ouais. Oui, exactement. Il y a une demande pour ce genre de truc. Donc, cette histoire de réseau social construit automatiquement, il y a quelque chose derrière. On verra. De toute façon, on va vite le savoir. Si dans 6 mois ou 1 an, on n'a toujours rien vu de chez Color, ouais. Comme tu le disais, Siegfried, si ça marche pas, ça va pas prendre de son essor.
Il y a Banaka sur le chat qui dit qu'il habite à San Francisco et qu'apparemment, il n'y a personne autour de lui qui l'utilise.
Ah oui, si même à San Francisco, il n'y a personne.
ouais, il dit qu'avant que ça fonctionne en France, il va falloir attendre un bout de temps.
C'est clair. Bon, à suivre. News suivante, Netflix a acheté House of Cards. Alors, est-ce que ça vous dit quelque chose, House of Cards? Pourquoi c'est important pour Netflix?
J'ai regardé un peu, ouais, effectivement. Donc, c'est un programme, c'est ça. Et plutôt que d'acheter un programme, une série, ils vont eux-mêmes la produire, si j'ai bien compris. Ouais.
Exactement. Ouais. Et c'est la première fois, en fait, que... Alors, Netflix, vous le savez, hein, j'imagine, c'est cette société américaine qui fait du streaming. En fait, vous payez un abonnement assez bon marché de moins de $10 et vous avez droit à tout leur catalogue en streaming à n'importe quel moment, autant que vous voulez. Leur catalogue streaming, qui est un petit peu plus réduit que le catalogue général, mais quand même, il est conséquent. C'est pas un truc où il y a que des séries B inconnues.
Oui. Pour donner, c'est un peu un équivalent. Enfin, on a Free Home Video en France pour ceux qui ont Free, ouais. Qui te permet pour un abonnement d'avoir un nombre de séries, des films et tout. C'est la même chose en mieux, quoi. Et moins cher.
Voilà, exactement. Parce que le catalogue, évidemment, est clé.
Ouais.
Et le truc qui est intéressant là, c'est que Netflix a décidé d'aller directement acheter une série. Au lieu d'acheter les droits d'une série à une société qui va la produire, un studio télé, à une chaîne de télé plutôt, et ben là, ils vont acheter directement, produire le studio et donc en avoir les droits immédiatement. Et quand on voit que YouTube a aussi commencé à acheter des sociétés qui produisaient du contenu et qu'ils sont en train de se tourner vers la production de contenu direct plutôt que vers l'achat des droits, on se dit qu'il y a peut-être un truc qui est en train de se passer à ce niveau-là. Et est-ce que on se demande si les sociétés de production sont pas un peu en train de rater le coche? Parce que s'ils font trop la fine bouche avec les gens qui proposent de la diffusion sur Internet, au final, ces gens-là risquent de se lasser et de se dire, bon bah merde, hein, nous on a des revenus aussi, on peut acheter les séries directement et carrément court-circuiter la télé, quoi. Peut-être que demain, par exemple, Netflix pourrait revendre les droits de, bon, ils les ont achetés en commun, mais avec ce genre de principe, revendre les droits de House of Cards, par exemple, qui a une chaîne de télé. Et là, ça devient complètement... Et entre parenthèses, House of Cards, c'est pas une plaisanterie, hein, c'est réalisé, le début en tout cas, réalisé par David Fincher et Kevin Spacey est l'un des acteurs principaux. Donc c'est une série très sérieuse, c'est pas Xena, Princesse Guerrière, quoi.
Tout dépend du business model qu'ils arrivent à mettre là-dessus, parce que je me demande comment une société comme ça parviendra à rentrer dans ses frais par rapport à l'achat de la série.
Eh ben, en fait, c'est un petit peu la question qu'on se pose, parce que le forfait qu'ils font payer à leurs abonnés est fixe. Donc, s'ils payent de plus en plus pour avoir de plus en plus de séries, ils ne peuvent pas étirer le forfait. Mais bon, on se dit qu'il y a encore de la marge. Il y a énormément d'abonnés, mais il y a encore de la marge. Donc, ils veulent avoir de plus en plus de gens, quoi.
C'est ce qu'ils expliquaient, c'est que c'était un pari quand même, un pari un peu risqué, mais qu'au final, par rapport à ce qu'ils payaient pour acheter les droits d'une série, c'était pas... tant que ça en plus, quoi. C'est sûr que ça représente quelques millions, mais,
ouais, mais c'est,
finalement,
c'est
pas pardon. Quelque chose qui met en danger leur business model juste pour une série pour l'instant. Quoi.
D'accord, mais c'est un beau modèle, c'est un modèle qui peut se passer de la publicité, ce qui est assez, pour le moment, ce qui est assez unique, enfin rare, puisque habituellement, on est encore en train de mettre beaucoup de publicité pour essayer de faire en sorte que ce genre d'initiative puisse s'autofinancer. Donc là, qu'il y ait des millions de gens qui soient prêts à payer un abonnement, c'est plutôt bon signe pour l'avenir.
Ah bah c'est sûr, hein.
Ça contredit les industries culturelles qui ont tendance à croire que les gens n'ont pas cette envie spontanée de payer pour quelque chose sur Internet.
Bah, je crois que ça confirme effectivement une fois de plus, parce que Netflix marche super, super, super bien depuis qu'ils ont lancé le streaming. Avant, ils envoyaient, enfin tout le monde connaît, mais ils envoyaient les DVD par la poste et vous les renvoyez à eux quand vous avez fini de le voir. Et depuis qu'ils ont lancé le service de streaming, ça marche super bien. Et il y a énormément de services de streaming qui fonctionnent, enfin avec abonnement. C'est un petit peu l'idée de la licence globale qui revient sous une forme différente. Donc, peut-être que ça marchera pas sur le long terme, mais en tout cas, l'expérience est très intéressante.
Et puis surtout, s'ils peuvent avoir des exclusivités, c'est un truc qui est un gros point pour leurs futurs clients. Quoi.
Ah, bah bien sûr.
Alors, je sais pas si là, s'ils ont signé avec un autre studio, c'est ça ? Ils sont plusieurs sur le.
Ouais, ils sont plusieurs à coproduire, ouais. Oui. Mmh. Mais ça veut dire qu'ils ont les droits directement.
Ouais, bah. Ouais.
Ensuite, d'ici à ce qu'ils aient vraiment tout ce qu'il faut, toutes les séries qu'on veut pour abandonner un autre type de diffusion, on n'y est pas encore.
Hein. Oui, c'est clair.
C'est pas exactement mais ça donne une direction, quoi. Autre grande nouvelle, c'est le paywall, donc l'abonnement payant du New York Times,
ouais.
Qui a enfin été annoncé. Il travaillait dessus depuis un moment. Et là, on nage par contre dans une eau tout à fait différente, parce que ils ont annoncé les prix. Et en gros, hein, je vais vous la faire courte, mais il faut à peu près entre 15 et 35 euros pour accéder au New York Times et avoir l'abonnement papier. C'est-à-dire que l'abonnement papier au journal lui-même et change les conditions si vous êtes abonné sur le web ou pas, etc. Bref, ça coûte excessivement cher. On est à peu près 35 dollars par mois.
Par mois.
Oui, par mois.
Ouais. Aïe, aïe.
Ouais, mais t'as la version papier avec au final.
Oui.
Voilà. Donc ça s'éloigne pas. Si tu regardes par exemple les tarifs d'un journal comme Le Monde, je pense qu'on n'est pas si éloigné que ça, parce que Le Monde fournit aussi une version électronique, même si effectivement c'est pas ce que on a sur Apple avec le paywall.
Oui, mais attention, Le Monde, si je ne m'abuse, tu peux consulter le site autant que tu veux. Là, le New York Times, quand ils mettent le paywall, ça veut dire que tu peux consulter des articles dans le New York Times genre 5 ou 6 fois ou 10 fois dans la semaine, et après, tu dois payer pour continuer à consulter. Alors, demandez pas comment ils font pour vérifier que tu l'as consulté. C'est déjà craqué de tous les côtés. ça tiendra pas. Mais
justement, en fait, ils ont ce système qu'ils ont mis en place de dire, voilà, on limite à 20 articles, mais c'est uniquement les articles qui vont venir de sources comme par exemple Google Actu. Et il y a tout ce qui est en fait les backlinks, donc de blogs, etc., d'autres sites, qui eux vont être conservés, qui vont permettre de visualiser gratuitement des articles qui donc sont liqués de cette manière. C'est ça qui est absolument.
Mais c'est un petit peu. En même temps, c'est un petit peu absurde, mais ils veulent pas se priver des liens qu'on va envoyer vers eux, ce qui est compréhensible, qui est bon, plutôt louable. Mais du coup, il y a déjà des sites et des comptes Twitter qui réunissent tous les liens, comme c'était le cas pour le Daily, hein, le journal de News Corp sur iPad, qui réunissent tous les liens. Ils font une édition genre gratuite. Il y a la protection qui a été craquée grâce à une toute petite modification du JavaScript en 2 minutes. Donc vous pouvez, enfin, c'est craqué de partout, mais
ouais, mais ils le savent. Hein, de toute façon, ils se font pas d'illusions sur ça, je pense.
Exactement. Ils ont commencé à faire genre à demander à Twitter de supprimer les comptes qui envoyaient les trucs gratuits, puis ils ont vite fait marche arrière parce qu'ils se rendent compte que c'est impossible. Je pense que ce qu'ils veulent faire, c'est mettre un petit obstacle à la consultation gratuite pour que la plupart des gens qui veulent pas s'embêter se disent bon bah oui, je vais aller payer. Mais leurs trucs sont tellement compliqués, pour $15 on a le web plus le téléphone, pour $35 on a le papier plus le téléphone plus le web plus l'iPad, pour $25 on a enfin bref, c'est vraiment compliqué.
Mais ils ont un peu le cul entre deux chaises, quoi. C'est le problème là sur.
Mais c'est tout le dilemme de la presse traditionnelle, c'est qu'en fait, s'ils restent sur le papier, comme le papier coûte extrêmement cher, s'ils restent sur le papier et qu'ils veulent fidéliser sur Internet, ils vont se retrouver avec moins de lecteurs sur papier, et donc du coup, le papier va devenir beaucoup moins rentable. Et ouais, de fait, à un moment donné, le papier va devenir tellement peu rentable que c'est comme si le web allait phagocyter le papier, et que le fait d'avoir débarqué sur le web, ça les interdit de rester sur papier. Donc c'est très compliqué. Ils sont obligés de rester justement le cul entre deux chaises s'ils veulent parvenir à pouvoir avancer sur les deux tableaux, parce que sinon ils vont forcément perdre pied dans un des deux supports.
C'est sûr, mais pardon, vas-y Siegfried.
Non, rien, mais je disais qu'on avait beaucoup parlé à la sortie de l'iPad 1, que c'était ce qui allait sauver la presse et tout, et puis là on voit qu'on en est quand même très loin, quoi.
C'est sûr. En même temps, ils ont eux aussi annoncé qu'ils acceptaient les conditions d'Apple, dont on a largement débattu ici, l'histoire des 30%. Donc, encore une fois, après avoir dit non, c'est scandaleux, 30%, on veut pas, c'est impossible, machin. Parce que, bon, on peut comprendre l'argument, on en a déjà parlé, mais finalement, ils se rendent compte que la facilité d'avoir à appuyer sur un bouton et à s'abonner, c'est quand même pas à négliger. Mais, enfin, moi, j'arrive pas à oublier le fait que, tu te rends compte, 35 dollars par mois, ça te fait $400 par an, quoi. Il y a, je sais plus qui avait fait un blogueur qui a fait un calcul de ce que tu peux te payer pour $400 par an avec les autres magazines. Et tu pouvais en prendre, enfin, les autres journaux, tu pouvais prendre un abonnement à un ou deux ou trois magazines et il te restait quand même $100 pour aller boire une bière le soir, quoi.
Ouais, mais au final, le prix, si tu veux, moi, il me surprend pas tellement dans le sens où la presse papier, ça a toujours été quand tu prends un abonnement classique, il y a encore 10, 20 ans, personne n'était étonné de payer 30 euros par mois pour avoir un abonnement.
Oui, mais
quoi.
Bon. On a
changé de système, on n'est plus sur les mêmes.
Moi, je crois qu'il y a une grosse erreur qu'ils sont en train de faire. Peut-être pas, hein. Peut-être qu'ils ont suffisamment de gens pour. Ils n'ont pas besoin que tout le monde. Non, les gars dans la chatroom, j'ai pas dit $100 la bière, mais tu peux prendre $100, te payer une bière, revenir le lendemain en boire une autre.
Ou alors, tu peux te payer $100 de bière dans la journée.
Voilà, c'est possible. Par exemple. Ou alors t'acheter une super bonne bière. Voilà, c'est ce qu'ils sont en train de dire. C'est les bières de riches.
Sinon, j'ai trouvé une bouteille d'alcool à 97 degrés, si ça intéresse quelqu'un.
Oula, oui, peut-être pas.
C'est un peu de l'essence, mais.
Non, mais moi, je pense qu'ils ont aussi copié, enfin, ils sont inspirés du modèle du Financial Times, qui a déjà un contenu payant depuis longtemps, mais le Financial Times, c'est un contenu tellement spécifique et c'est des gens tellement. Qui ont besoin de cette information absolument, c'est une telle référence que ça peut peut-être fonctionner. C'est difficile de trouver ces informations ailleurs. Alors que New York Times, tu vas sur n'importe quel magazine, enfin n'importe quel journal, n'importe quel grand journal, t'as les mêmes informations. Donc,
juste, je regardais, en fait, pour un abonnement au Monde en ligne, c'est 27 euros par mois pour 2 ans. si on s'engage pendant 2 ans, c'est 27 euros par mois.
Ouf, oui, c'est un peu cher.
Bah, on est pas loin, hein. C'est là, au final, c'est les mêmes prix à peu près.
Ça veut dire que le Monde aussi, on ne peut pas le consulter plus de, d'un certain nombre de fois ?
Ah, les anciens articles, je crois que c'est une semaine, et au bout d'une semaine, tu es obligé de payer.
C'est pour les archives, d'accord.
Pour les archives, ouais. Pour les archives. Mais après, de toute façon, dans le journal papier, t'as pas, les articles du journal papier, tu ne les retrouveras pas en intégralité sur le site web. Hein. À une époque, c'était deux filiales, deux sociétés séparées. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont plus ou moins réunis, mais de toute façon, c'est pas le même contenu. Tu as du contenu qui est fait spécifiquement pour le web et tu as les articles du journal que tu vas retrouver sur la version numérique, mais en payant. Ouais.
Et effectivement, l'abonnement, c'est il y a web plus iPhone plus iPad à 15 euros par mois, gratuit, et journal plus PC, c'est 27 euros par mois. Bon, c'est quand même. Enfin, je sais pas. Est-ce qu'il y a des gens dans la chatroom qui sont. Bon, c'est peut-être pas le bon public, hein, on est très technophile, donc. Mais est-ce qu'il y a des gens dans la chatroom qui seraient prêts à payer ce genre de tarif Siegfried, Guillaume, vous payeriez ce genre de tarif pour ces journaux
Moi, essentiellement, le truc qui me pose problème, c'est peut-être parce que je suis un petit peu de la génération. Pas
T'es
la toute
vieux,
dernière.
Quoi, voilà.
Eh bien, moi, ce qui me pose problème, c'est de ne pas avoir le fichier PDF. Moi, j'ai encore besoin d'avoir un fichier que je possède et que je peux archiver. Ouais. Et si j'ai envie de revenir sur un numéro qui est paru il y a 6 mois, j'aime savoir que j'ai encore la possibilité de le faire. Mmh. Alors qu'avec leur système, j'ai la sensation que c'est de l'argent qui part en fumée. Voilà. Mmh. Voilà.
Bah, d'ailleurs, dans la chatroom, bon, tout le monde dit non. Certains, Barberousse dit pour un abonnement à une plateforme de différents journaux, pourquoi pas. Donc oui, c'est cher pour un journal, quoi. Si c'est genre 27 euros par mois pour toute la presse, tu vois, genre on revient à cette histoire de licence globale, peut-être, pourquoi pas. Mais et Otuke 2 dit Twitter s'informe mieux, et il le dit en plaisantant, mais c'est vrai que ça fait partie des médias, des moyens d'information qu'on a aujourd'hui.
Ouais, c'est des moyens d'information qui souvent pointent vers des médias plus classiques, même qui, enfin sur la version web au final. Et je pense que c'est une question de génération. On est notre génération à nous n'est pas encore prête à payer. Pour de l'info. En fait, le prix de l'info pour nous n'a plus la même valeur qu'elle pouvait avoir il y a 10-20 ans. Et c'est ça, je pense, le souci principal.
Bon, on avance avec Amazon qui a eu une initiative intéressante dont on avait déjà parlé. C'est l'App Store d'Amazon sur Android. Alors attention, App Store TM, il y a un débat là-dessus, on va l'évoquer aussi. Mais ils ont fait quelque chose d'assez intelligent, c'est qu'ils ont vu l'App Store, enfin le Android Market, et où c'est un petit peu le foutoir, il faut bien l'avouer. Et ils se sont dit, bon, on va proposer, comme c'est ouvert et qu'on peut faire absolument ce qu'on veut, on va proposer notre propre App Store dans lequel on va accepter que certaines applications et où on va sélectionner les choses et les gens paieront par le système Amazon. Ça pourrait devenir l'App Store, le magasin clean d'Amazon et il pourrait y avoir plusieurs App Store différents. Pardon, j'ai dit d'Amazon, sur Android. Il pourrait y avoir plusieurs App Store différents, un Android, l'Android Market, l'Amazon App Store, etc., etc. Et pourquoi pas, c'est une initiative intelligente. Surtout que Amazon, ils sont en embuscade, ils ont peut-être d'autres choses derrière, en particulier avec le Kindle.
Bah non, sûrement. Si, non, mais c'est clair. Mais je crois que, l'App Store aujourd'hui sur Android, elle est bordélique, quoi. Faut bien l'avouer. Ouais. C'est tout le problème du truc, quoi. C'est qu'on peut. Je suis pas un fan d'Apple, mais faut avouer que du point de vue de l'App Store, quoi. Ouais. J'ai un Android et c'est la galère pour trouver des bonnes apps qui plantent pas, qui marchent. Donc après, je sais pas trop où Amazon veut aller avec ça. Honnêtement, faire une App Store comme ça. Tout court.
Il y a de l'argent à se faire. Enfin, je sais pas combien ils prennent, mais j'imagine qu'ils prennent plus qu'Android sur le coup, sur l'App Store peut-être. Je sais même pas en fait.
Je pense que le gros point pour eux, de toute façon, c'est de pouvoir utiliser les comptes Amazon qui ont déjà cartes de crédit, un peu comme les comptes iTunes. Et ça, c'est vrai que c'est un gros avantage. T'as pas besoin d'entrer ta carte.
Et d'ailleurs, Apple n'était pas super content parce qu'ils veulent, ils sont en cours de dépôt de la marque App Store qu'ils voudraient déposer. Alors évidemment, ça a fait hurler de rire toute la blogosphère parce que bon, les apps, ça existait depuis longtemps. Store, c'est comme Facebook qui veut trademarker Face. Microsoft à l'époque de Windows,
Je crois que le plus marrant, c'est que Microsoft avait fait un procès à Apple justement pour l'App Store, pour le terme d'App Store déjà.
Exactement. Ouais. Donc Apple avait répondu avec une réponse légale où il disait Microsoft a un petit peu la mémoire courte parce que Windows c'est un terme générique aussi. Hein. Mais est-ce qu'il y a un bon, c'est forcément drôle de premier abord, mais le terme App Store. Apple a quand même transformé un petit peu la signification. Quand on dit l'App Store, on comprend quelque chose. Enfin, ça oriente. Il a donné à ce terme un lustre qu'il n'avait pas forcément avant. Tu dis un App Store, c'est un truc clean où tu vas acheter tes apps, c'est cool, c'est sympa. Est-ce qu'ils ont une raison de s'inquiéter ou
bah, une légitimité dessus? Je sais pas, honnêtement. j'ai du mal avec tout ce qui est brevet, marque, etc.
Ouais. Toi, t'es un rebelle, le capitaine, donc. Vas-y, Guillaume.
Oui, moi, justement, lorsque je veux parler d'une plateforme, que ce soit Android, celle de Nokia ou n'importe laquelle, je dis App Store. Donc, ouais. En fait, pour moi, ça représente vraiment le principe de plateforme, mais je ne l'associe pas du tout à Apple exclusivement.
Ouais. Et puis, de toute façon, effectivement, ils peuvent dire le Apple App Store. Je veux dire, même s'ils ont un petit peu chargé
c'est l'iTunes Store, à la base. Donc
Oui, mais l'App Store, c'est spécifique. C'est vraiment l'endroit où tu vas chercher tes petites apps, quoi.
Oui, c'est vrai.
Bon. À propos d'Android, ils ont un petit peu énervé les camarades du monde de l'open source cette semaine, la semaine dernière, parce qu'ils ont annoncé que la version tablette d'Android, Honeycomb, ne serait pas ouverte et qu'ils n'allaient pas livrer le code source comme ils le font généralement puisque c'est un projet open source. Et là, évidemment...
C'est le drame.
Et oui. Et là, c'est l'accident. Le truc, c'est que Android à la base est effectivement c'est un petit peu le foutoir parce que tous les constructeurs modifient un petit peu le système pour le mettre sur leur machine. On a vu beaucoup de constructeurs mettre Android 2.1 voire 1.6 sur les tablettes et là leur terreur à Google c'était qu'on voit Android 3.0 donc spécialisé sur les tablettes arriver sur les téléphones parce que ça aurait créé une expérience utilisateur qui n'était pas satisfaisante et qui aurait dégradé en quelque sorte l'image de marque d'Android. Alors moi forcément je suis plutôt du côté tout doit être ordonné, Apple a des raisons de faire ce qu'ils font et je les comprends et même je trouve que c'est une bonne chose. Donc moi je trouve que c'est une démarche qui était même nécessaire pour qu'Android sur tablette ne soit pas immédiatement transformé en une sorte de foutoir incompréhensible. Mais bon, moi, j'ai mes opinions là-dessus. Toi, Captain, qui est un petit peu plus roots, est-ce que ça te révolte que maintenant Google prennent en otage presque. Ils sont à eux, mais.
Non, mais ils ont un problème qui est évident, qui est celui de l'interface qui change d'un téléphone à un autre. HTC, d'ailleurs, du coup, ils vont pas utiliser Honeycomb, je crois, parce qu'ils veulent utiliser leur interface HTC Sense, si j'ai bien lu le truc.
Ils rajoutent en fait dessus, si je ne m'abuse, sur Android, ils rajoutent leur propre couche, beaucoup le font.
Ouais. Mais le problème, c'est le problème typique, je pense, d'un système qui doit fonctionner sur des milliers de matériels différents. Et à un moment, on en arrive à un point où chacun fait son truc de son côté et on se retrouve dans des. C'est le souci. C'est pour ça autant, si tu veux, je suis vraiment pas un fanboy d'Apple, autant là-dessus, je sais pas, je vois pas comment Google peut faire pour trouver une solution à ça.
Ils vont quand même revenir vers l'open source avec Android 4.0 qui va réunir les deux versions en fait, version tablette et version téléphone. Ça risque d'arriver. On parle de cet été même. Oula, il y a quelqu'un qui.
Putain. Non, ça c'est le groupe des autres qui est en train d'arriver. Voilà, tu vois. C'est le problème de bosser dans une grotte, c'est que C'est que tu partages ta grotte et quand les autres ours arrivent, et ben voilà, c'est le bordel. Tu les as tous vus plus ou
c'est
moins.
Qui
ah bah écoute, là
c'est
tu
Quakos,
as
Manox et
Mister LTP. D du Quadratour, tu as Quakos.
I love your body, Patrick.
Voilà, que tu viens d'entendre, et tu as alors ton père qui se cache, mais comme il y a une caméra, je pense qu'il ne va pas se rapprocher trop près. Encore qu'elle n'est pas branchée. Voilà.
Oui, non, on ne doit pas. Bah, tu les salues pour nous. Oui, qu'est-ce qu'on disait ? Du coup, je suis perturbé. Donc,
on parlait de Android
4.0, peut-être cet été qui réunirait les deux. Guillaume, ça t'inspire un truc, toi, Google,
oui.
qui revient sur sa parole d'open source ?
Alors moi, je suis partagé parce que Apple, je suis fâché avec eux depuis que l'iPhone 3G n'est plus compatible avec le dernier firmware.
Oh là là, mais ils sont terribles, ces gens. Bon,
je suis hyper fâché, alors que jusqu'à maintenant, mon iPhone 3G, je le chérissais. Là, maintenant,
mais
terminé,
il marche toujours.
Très mal. Je pense que... D'accord. Je t'en pourrais plus. Je pense que si t'avais cet iPhone entre les mains, honnêtement, c'est vraiment plus possible.
Ah, c'est qu'il est hyper ralenti.
Oui.
Mais je croyais qu'ils avaient corrigé le problème avec le tout dernier.
Oui, bah, c'est à nouveau problématique. C'est-à-dire qu'entre-temps, ils ont sorti un nouveau truc dans lequel ils prenaient plus en compte le problème initial. Donc en fait, quand je mets en route le GPS, c'est foutu. Je peux plus rien faire.
Mais t'en as pas besoin. Steve a décidé que t'en avais pas besoin du GPS.
Ah oui, non, mais si je désactive le GPS, effectivement, ça va un petit peu mieux, mais c'est pas encore tout à fait ça. Donc moi, l'un dans l'autre, je ne sais pas encore très bien quoi en penser. Moi, je vais me diriger vers le Samsung Galaxy 2 quand il sort, quand il sortira.
Galaxy S,
le S2, c'est ça, non ?
Le S est déjà sorti, peut-être, oui, tu as peut-être raison.
Donc c'est le S2 qui devrait sortir en juin, je crois. Tout ça pour dire qu'en fait, le problème, c'est la surcouche et que ça génère une fragmentation énorme entre les différents constructeurs et qu'on se retrouve avec des gens qui ont le firmware 2.2, d'autres le 2.3. Certains sont bloqués au 2.2 et ne peuvent pas avoir des applications qui tournent en 1.6. C'est un foutoir, j'ai l'impression que c'est un foutoir, mais magistral.
Ouais. Donc, c'est le problème de la fragmentation, quoi.
Donc du coup, peut-être qu'il n'est pas si mauvais que ça de resserrer un tout petit peu les boulons, au moins le temps de nettoyer la chose pour repartir sur des bases saines, quoi.
Voilà, mais la question, c'est je connais mal les droits des licences libres, etc., mais je ne sais pas trop comment. Est-ce qu'ils ont le droit de faire ça ?
Ah bah oui, disons qu'ils ont, ils sont quand même, eux, à l'origine du projet. Ensuite, ils l'ouvrent. Mais s'ils ne veulent pas ouvrir une version à un moment, ou même ne plus jamais rien ouvrir d'autre, ils font ce qu'ils veulent. Les versions précédentes sont, elles, ouvertes et le code source est disponible. Mais les versions suivantes, s'ils décident de ne plus les mettre en open source, ils font ce qu'ils veulent.
Il suffit que tu aies un bout de code GPL dedans. Il me semble que tout le reste doit découler de cette licence, non ?
Oui, alors justement, il y a des questions, là on rentre un peu dans les détails, mais il y a des questions selon lesquelles certains bouts de code seraient GPL, licence libre, et donc ils penseraient à abandonner ce code-là spécifiquement, à le refaire en interne pour pouvoir gérer leur truc un petit peu plus à leur aise. Donc,
les avocats vont avoir du travail.
Oui, exactement. À propos, tu parlais de Samsung et de Galaxy. Samsung a annoncé ses prochains Galaxy Tab, donc on revient vers les tablettes, on n'en sort pas, hein, et dont une version serait plus fine que l'iPad 2. Ah oui, tiens, entre parenthèses, on n'a même pas évoqué, c'était pas fait exprès, c'est pas parce que les gens sont venus gueuler sur le blog, mais on n'a même pas parlé de l'iPad 2. Donc, je veux juste dire en deux secondes. Donc, il est sorti en France, que interminable, tout ça. Donc, moi, quand on était avec toi, Siegfried, ce week-end, on a pu le tester. Et moi, j'ai décidé que l'iPad 1 et la différence était vraiment pas assez grosse. Et donc, je vais même plus essayer de vendre mon iPad 1. J'attendrai le 3. Finalement, même tu vois, pour 300€, ça vaut pas la différence. Quoi.
Bah, c'est une grosse
si je peux le revendre pour 400 et en racheter un autre pour 700. Les 300€ d'upgrade me motivent plus tant que ça.
C'est une grosse mise à jour, quoi, mais bon, voilà.
Voilà. Après, le Samsung, donc il serait plus fin que l'iPad 2, et puis ensuite, finalement, c'est pas forcément le cas, on n'est pas sûr, machin. Bref, Samsung contre-attaque avec ses tablettes, elles ont l'air sympas, quoi. Les Galaxy Tab, les nouvelles. 10.1 inch, pouces. Il y a un 7 pouces qu'on connaît, un 9 pouces qui va sortir. Un 8,9 et un 10 pouces.
Voilà. Étant fâché avec Apple, j'étais en train de regarder de lorgner franchement sur ces tablettes. Alors, jusqu'à ce jusqu'à ce que je vois le prix. Et là, ça m'a fait mal. Je me suis dit non, c'est pas possible.
Mais pourquoi c'est le même prix que l'iPad ?
Oui, voilà.
Ah oui, donc c'est ça. Oui, d'accord.
C'est vrai que maintenant que l'iPad 1 est à 350 euros, je crois, c'est ça ?
Tant qu'il y aura des stocks, je crois 389. Peut-être ouais. 350, je sais plus. Ouais.
Forcément, t'hésites, quoi. Mais le problème, ouais, c'est pas tant le matériel, c'est plus le système, c'est toujours la même chose. J'ai pas testé les tablettes Samsung, donc je sais pas.
Ouais.
Pas mal de monde convient que, en fait, le système d'exploitation, il est pas fait pour des tablettes. Il est parfait pour des téléphones portables, mais pas fait pour des tablettes.
Mais c'est pas Android Honeycomb qui est sur ces tablettes-là ? Pas sur le Galaxy Tab aujourd'hui, mais sur les prochaines, j'imagine que quand même. D'ailleurs, on ne sait pas parce que non plus, elles sont pas disponibles encore. C'est le 8 juin pour la 10.1. Les versions plus petites, c'est début de l'été en théorie. Et le truc, c'est que d'une part, elles sont aussi chères que l'iPad, donc c'est bien. C'est le même prix, donc ils sont compétitifs. Mais le problème, c'est que encore une fois, il y a beaucoup de gens qui s'énervent quand on parle de l'iPad et on dit l'iPad machin, l'iPad ceci, l'iPad est une bonne tablette. Mais les autres, elles sont pas là, quoi. Il y a le Zoom qui, bon, est bien, mais c'est une alternative. Il est loin d'être parfait. Les autres sont pas là non plus. Et il y a plein de gens qui annoncent leur truc. Le Playbook devrait sortir et moi je l'attends. Il a l'air vraiment bien. D'ailleurs, entre parenthèses, le Playbook de RIM devrait également pouvoir utiliser les applications Android.
Oui, j'ai vu ça. Ouais.
Donc, bref, mais c'est frustrant, quoi. La compétition, ouais. la concurrence, pardon, met vraiment du temps à démarrer. Donc, moi, je l'appelle de mes voeux. Hein, je veux dire, Android Honeycomb a l'air vraiment très bien, quoi. Mais
ce qu'il faudrait presque, ce serait que, excuse-moi, je te coupe, que l'App Store Apple soit. Si on pouvait utiliser les applications Apple sur d'autres tablettes, si tu veux, je crois que ça changerait tout. Mais oui, je pense pas que Steve Jobs sera d'accord.
Il risque d'avoir une ou deux objections.
Ouais.
Déjà qu'il veut pas que tu utilises le nom d'App Store pour les apps qui sont dans l'App Store, ça va être compliqué.
Guillaume, il y aura un mec un jour qui sortira un hack comme ça où tu pourras utiliser toute l'App Store sur un. Si c'est pas déjà fait d'ailleurs, sur
oui, c'est Android. Oui, c'est bizarre d'ailleurs. Hein. Le système plays for show, fair play. Fonctionne bien les DRM d'Apple. Guillaume, tu voulais dire quelque chose, non ?
Oui, pour avoir testé le premier Galaxy Tab, en fait, le principal défaut pour moi, c'était que je le trouvais trop petit. Et en fait, moi, ce que j'espérais, c'était pouvoir regarder des magazines en PDF dessus. Et en fait, je pense que le passage à un format en 10.1, ça va très bien me convenir à ce niveau-là. Donc moi, c'était le principal problème, parce que sinon, j'adore l'interface d'Android en général, j'aime bien le principe du widget en page principale, et j'en ai marre de voir ce système de mosaïque de petites icônes, comme sur l'iPad ou sur l'iPhone.
Ouais.
Et là, j'ai l'impression de cracher un peu dans la soupe parce que j'ai été à fond sur Apple pendant 2-3 ans. Et là, franchement, j'en peux plus. Mais bon.
Non, mais c'est compréhensible. Hein.
Non, mais le gros avantage des tablettes Android, c'est de pouvoir regarder les films de cul sur YouPorn dans ses toilettes. Quoi.
Donc, il n'a pas tenu.
Ça commence à, oui, d'accord.
Je suis sûr qu'il y en a qui achètent des tablettes Android uniquement pour ça. Hein.
c'est pas impossible. Mais tu peux le faire sur ton téléphone Android aussi.
Ah ouais, mais l'écran est petit.
Tiens, on parlait donc des performances de Samsung. J'ai vu, je sais pas si vous l'avez vu, mais ils sortent une sorte de concurrent du MacBook Air qui est hyper hyper fin, aussi fin que le MacBook Air, qui est super joli avec une sorte d'aluminium très sombre brossé. Le seul truc, c'est qu'il est genre aussi cher, voire plus cher que le MacBook Air. Non, à peu près dans les, ouais, un tout petit peu plus cher, quoi.
Bah faut essayer.
Mais ouais, si vous aimez le matériel et que vous êtes quand même un PCiste convaincu ou un détesteur d'Apple, parce qu'il y en a, peut-être que c'est une chose à regarder. On parlait de Fairplay Transition, le système de DRM d'Apple, qui protège donc les apps, les films, qui protégeait la musique jusqu'à ce qu'elle devienne complètement sans DRM.
Je crois qu'il y a encore des morceaux qui sont sous DRM, non ?
Non, aujourd'hui, ne m'abuse, hein, si je ne dis pas de bêtises, tous les morceaux de musique en vente sur l'iTunes Store sont devenus iTunes Plus, enfin en gros c'est sans DRM.
Ok.
Et ben Apple se retrouve au tribunal et Steve Jobs va devoir témoigner parce que à cause d'un procès qui avait été engagé par Reel, vous vous souvenez de cette société qui avait créé ce monstre tentaculaire de Reel Player.
Il survit encore en plus, hein, je le vois.
Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais enfin, il faut pas le toucher avec un bâton. Hein. Il faut rester loin quand même.
Il est à la maison de retraite avec MySpace.
Et toi, comment ça va? Oh, bah, moi, à l'époque, j'étais un concurrent d'iTunes. Non, bah, moi de Facebook.
Il me reste plus que 10 utilisateurs.
Et donc, bref, Reel a fait un procès à Steve Jobs parce qu'à une époque, ils avaient trouvé un moyen d'utiliser de jouer, en fait, sur leur lecteur les morceaux achetés sur iTunes et Apple avait modifié leur DRM pour rendre ça impossible. Et donc, abus de position dominante, monopole, etc. Ça, c'est discutable, mais c'est pour ça qu'ils avaient fait le procès. Et
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Et aujourd'hui, alors c'est marrant parce que ça a pris tellement longtemps que le procès se retrouve en cours maintenant, alors que ces DRM dont on parlait à l'époque n'existent plus, puisque comme on le disait, toute la musique est disponible sans DRM aujourd'hui. Le truc, la raison pour laquelle je voulais en parler, la raison pour laquelle c'est vraiment intéressant, c'est que c'est encore intéressant aujourd'hui, je veux dire, c'est que ce système de DRM est toujours appliqué sur les vidéos et les apps, j'imagine, je veux pas dire de bêtises, mais je crois, mais en tout cas sur les vidéos. Donc l'issue de ce procès risque quand même d'avoir des conséquences sur le monde d'Apple aujourd'hui, parce que si jamais, imaginons hein, que dans 2 ans, Reel gagne son procès et Apple soit obligé d'autoriser les sociétés à pouvoir lire les fichiers qu'ils vendent, ça pourrait vouloir dire que tu peux lire un fichier vendu par Apple, une vidéo vendue par Apple sur n'importe quel appareil. Et ça pourrait être intéressant. Ça serait pas mal. Franchement, je dirais pas non.
Bah, ce serait bien. Ouais, tu m'étonnes. Oui. En même temps, j'ai jamais acheté une seule vidéo sur l'iTunes Store. Tu vois. Autant les apps, ouais. La musique, des fois. Alors, les vidéos.
Bah, imaginons par exemple qu'ils sortent enfin un système d'abonnement, tu sais, un comme Netflix.
Oui. Un truc qui a Spotify pour pour les musiques aussi.
Ah, là, c'est sûr que je prends. Enfin, moi, vous le savez, hein, chers auditeurs, j'ai déjà mon abonnement Spotify depuis un moment. S'il y a un truc similaire pour les séries télé et les films, je me plonge, mais direct. Je serais prêt à payer pas mal, hein. Franchement. Je paye déjà 20 euros par mois pour le ciné, pour la carte de ciné, ce qui est une affaire invraisemblable, je trouve. 10 euros pour la musique. Franchement, moi, je serais prêt pour les séries télé et les films. Même uniquement pour les séries télé, je me demande si je serais pas prêt à payer genre 30 euros, 20, 30 euros, quoi.
C'est quand même cher, hein, 20, 30 euros. Parce qu'au final, le problème, c'est quand tu cumules tout ça, Spotify, plus un truc comme ça, plus si t'as Free Home Video, etc., ça te revient à une fortune, au final.
Bah, oui, mais quand même. Imaginons qu'au total, ça te revienne à 70, 80, même 100 euros. Tu te rends compte que pour 100 euros par mois, tu as accès à toute la culture disponible autant que tu veux. Tu vas choisir ce que tu veux, autant que, tu vois, sans restriction, sans limitation. Pour moi, ça vaut largement le coup, quoi.
Non, c'est sûr, c'est une affaire. Mais je crois qu'il y a encore moins cher sur Pirate Bay. Pour le prix d'un VPN, tu peux avoir un maximum de trucs, quoi. Tu pourras couper au montage.
C'est pas faux. Non, oh bah, tu rigoles, j'avais de la vie, attends. Chacun est libre de dire ce qu'il veut dans cette émission.
Ouais, tu diras ça au juge.
Non, au juge, je vais faire « Non, 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 Siegfried Touvenot, il a un cybercafé là-bas, vous voulez son adresse, c'est lui qui l'a dit. »
Ah non, je la connais, encore lui.
Justement, à propos de procès et de trucs un petit peu ridicules, il y a le procès que fait l'industrie de la musique à LimeWire, pour ceux qui le connaissent encore, c'était ce logiciel de partage de MP3 qui a fait un petit peu suite à Napster à la grande époque. Alors, dans la demande qu'a fait l'industrie de la musique, ils ont dit qu'ils voulaient, en dommages et intérêts, 400 milliards pour l'estimation basse et 75... Pardon, 75 000 milliards, ce qui veut dire 75 billions en français, parce qu'en anglais c'est trillion.
C'est vrai, oui.
Donc 75 billions de dollars pour l'estimation haute. Ça veut dire que c'est plus que le produit intérieur brut du monde entier. C'est plus que l'ensemble des chiffres d'affaires de toute l'industrie de la musique depuis, combien ils avaient dit, je ne sais plus, 10 ans ou... Enfin, même plus, c'est depuis le début de l'existence de... Alors, c'est tellement risible. J'étais parti dans diatribe énervée il y a quelques épisodes en disant que l'industrie de la musique méritait même plus qu'on la considère avec une once de sérieux. Mais 75... Oh, je vais me calmer.
Mais je suis sûr que Pascal Nègre pourrait justifier ça.
Oui. Non, mais c'est facile. Il justifie ça en disant alors, un morceau, ça coûte... Ça nous fait perdre genre tant de milliers de dollars. Donc, les morceaux ont été rajoutés... on a genre 10 000 morceaux qu'on a traqués. Ils ont été partagés tant de millions de fois. Donc, au final... Paf, voilà, c'est la somme totale parce qu'ils ont été partagés tant de fois. Et entre parenthèses, le juge a accueilli cette demande en disant « C'est totalement absurde, c'est ridicule, merci de revenir avec un autre chiffre parce que là, vous faites pitié. » Bon, je paraphrase. Ouais. Hein.
J'ai deux autres chiffres pour illustrer ça. C'est d'une part, ça reviendrait en fait par rapport à la population mondiale, ça reviendrait à dire que chaque habitant devrait payer 10 000 dollars pour combler cette amende, puisqu'on est 7 milliards, ça reviendra à peu près à ça. Et d'autre part, l'estimation basse revient à peu près au PIB de la Norvège. C'est-à-dire que même l'estimation basse, c'est un truc complètement hallucinant.
Bah ouais, mais c'est normal. Tu sais que Pascal Ney, quand il prend son jet privé pour faire 3 stations de métro, ça coûte un max, quoi. Pour pouvoir payer ce genre de truc aussi. Mais dans le même genre, je sais pas si vous avez vu, il y a une news qui est tombée aujourd'hui concernant la SACEM belge, qui ont réussi à signer un accord avec, je crois que c'est le syndicat des routiers ou un truc comme ça, puisqu'ils considèrent que l'habitacle des camions est un lieu de travail, et donc désormais, l'industrie des transports routiers devra payer à la SACEM belge un certain montant pour...
Mais attends, ils ont trouvé je sais qu'ils avaient fait la demande, mais ils n'ont pas accepté ça.
Si, ça y est, ils ont apparemment, d'après ce que j'ai lu, ils ont signé un accord, hein, je pense.
Oh là là, franchement, il y a un moment, ça devient même plus drôle, quoi. C'est.
Tu verras,
plomber l'ambiance.
Moi, je pense que bientôt, ils vont taxer les oreilles. Et il n'y aura que les sourds qui auront le droit de rien payer, quoi.
Exactement. Mais tu sais, c'est le coup des gens de la RIAA qui vont sonner aux portes des petites filles qui fêtent leur anniversaire parce qu'on chante joyeux anniversaire, quoi. C'est ce genre de truc, limite.
Bah ouais, ouais. Bah, c'est un système qui est appliqué jusqu'au bout, quoi. Jusqu'à l'absurde.
Absurde, vraiment, là. Dans les nouvelles de légal, il y a aussi l'accord qui avait été trouvé entre la Writers Guild of America et Google, donc la guilde le syndicat des auteurs américains et Google pour la question de la vente pour Google Books en fait, pour le scan des différents livres et la mise à disposition de ces livres-là, voire la vente des livres. Un juge a invalidé cet accord pour une raison qui est parfaitement cohérente, là encore, c'est que le syndicat des auteurs avait dit « Bon, alors, pour les livres qui sont de notre... dans notre escarcelle en quelque sorte, pour les auteurs qui font partie du syndicat, eh ben, on va payer tant, tant et tant. » Mais le problème venait des œuvres qui n'étaient pas dans l'escarcelle de du syndicat, parce qu'il disait, si jamais un livre n'est pas réclamé, donc un livre qui est l'auteur est mort ou les droits sont devenus libres, il dit, si le livre n'est pas réclamé, eh ben on va quand même prendre l'argent et puis on gérera notre truc. Un petit peu comme la SACEM, qui, mais c'est, enfin là pour le coup c'était vraiment, c'était pas comme la SACEM qui prend de l'argent, enfin je connais pas exactement bien, mais la SACEM collecte les droits de tous les auteurs et interprètes de musique en France. Et
inscrit, je crois que c'est uniquement ceux qui sont inscrits à la SACEM.
Voilà, exactement.
Il faut être inscrit.
Ouais, exactement. C'est pour ça que c'est un petit peu différent, mais je veux dire c'est le même système de collecte de droits, sauf que le syndicat des auteurs disait, bah même ceux qui ne sont pas inscrits, si personne ne se manifeste, on va le faire, on va s'arranger, vous inquiétez pas, nous on gérera l'argent. Alors évidemment, le juge a dit, non mais attendez une seconde, c'est n'importe quoi, donc non. Voilà. Ouais.
Mais je crois que finalement, le dernier accord a été rejeté, et c'était plus parce qu'en fait, ce qui était au départ donc une plainte de la guilde des auteurs là, s'est transformé en une sorte d'accord business entre les deux.
Ouais.
Et sans que c'est ça a bloqué. Ouais.
Oh oui, c'est ça. Ouais. Et que l'accord était pas, enfin, la Writers Guild s'était érigé sans aucune procédure en représentant de tous les ayants droit de livre, enfin en tout cas pour les États-Unis. Donc bon. Encore une histoire avec Apple et cette histoire d'app anti-gay. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Si, on en a parlé la semaine dernière dans le podcast justement.
Ah, j'ai pas écouté. Alors,
les 5 heures d'émission par semaine, c'est pour ça.
De temps en temps, j'écoute. Je ne vais pas forcément au bout à chaque fois.
Oui,
j'avoue,
je sais, c'est dur.
Mais 3 heures et demie. Non, 5 heures, t'es méchant. C'est 3 heures généralement. 3 heures, 3 heures.
Ah, on a fait un numéro de 5 heures.
Je sais bien, oui. Effectivement.
C'est la dernière heure la plus dure. Hein.
Oui, voilà.
C'est juste les vrais warriors qui restent jusqu'au bout.
Mais genre, on ne se rappelle pas de la dernière heure. C'est la première heure.
Qu'est-ce que je disais moi? Ah oui, Apple et les gays.
Oui.
Donc effectivement, il y avait une app qui était sur l'App Store, qui était éditée par Exodus International, qui était une app qui vous promettait de vous guérir de votre homosexualité. Alors évidemment, la communauté homosexuelle et LGBT en général, lesbienne, gay, bi, transsexuelle, etc., avait été non, enfin évidemment offensé, et il y a une pétition qui a fait 150 000 signatures pour demander à Apple de la retirer, et Apple était dans une position un petit peu difficile parce que où est la liberté d'expression et où est comment dire, l'incitation à la haine ou l'incitation à les applications dangereuses. Et parce que comme ils ont déjà retiré des applications pour d'autres raisons, évidemment, là, tout le monde leur demandait, mais attends, tu retires tel truc, tel machin, et pourquoi pas celui-là? Finalement, ils ont accepté de la retirer, avec une précision tout de même qui a été faite par certains représentants des organisations de défense des droits des homosexuels, pour dire que la manière dont c'était tourné, ça pouvait vraiment devenir dangereux, parce que certains homosexuels peuvent se sentir tellement affectés par leur homosexualité quand ils lisent des choses comme l'homosexualité est un défaut, on va vous en guérir, c'est une maladie, vous allez pouvoir vous en sortir, machin. Ça peut provoquer des drames. Un gamin, par exemple, à l'école, peut attenter à sa vie ou se faire mal ou même être... ça provoque une ambiance de haine qui peut être vraiment dangereuse. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles ils voulaient la faire retirer. Heureusement, elle a été retirée.
Oui, mais c'est limite, c'est considéré d'ailleurs comme plus ou moins comme une secte par diverses organisations aux États-Unis. Ouais. Hein, ils avaient eu tout ça. Enfin, ça pose le problème avant tout, si tu veux, d'Apple qui s'érige en censeur a priori de toutes ces applications. À partir du moment où il décide de passer une application, il est clairement responsable, si tu veux, de ça. Quoi. Ce qui est pas un problème qui existe sur les autres plateformes, puisque sur les autres plateformes, au final, sur Android par exemple, l'application arrive. S'il y a un problème, si quelqu'un se plaint à ce moment-là, Google peut faire quelque chose éventuellement, mais.
Oui, c'est sûr.
Ça me fait effectivement penser, ça m'a tout de suite fait penser aux approches que peuvent faire la scientologie dans la façon de présenter les choses. Et d'autre part, j'avais une petite anecdote par rapport à des applications iPhone, et en fait j'en connais une qui s'appelle Mea Culpa, Et le principe de mea culpa, c'est de se confesser. Et l'application donc sert à ça. Il y a 400 péchés qui sont référencés dans l'application, et l'application sert à se confesser. C'est hallucinant, ça coûte 2 $, et on se demande où va l'argent. Donc en oui. fait, il y a vraiment des applications un peu bizarres.
Oui, ça va sur mon compte en Suisse.
Révérend Captain, Révérend oui, Web, oui. Ouais, ou un truc du genre. Ah, c'est un bon business model, ça. Peut-être que pour No Watch, on devrait penser à un truc du genre. Ah. Alors, je vais changer un tout petit peu la narration de cette émission. En fait, je suis un envoyé d'une planète bien lointaine. Et si vous voulez faire partie des élus quand nous partirons sur la planète Zorglub 72...
faut avoir l'application, comme ça vous serez averti. Voilà.
Bon l'application nowatch.zorglub.
Voilà. Tu es le gourou Patrick.
Écoute, à 2 € la confession, je pense que ça vaut le coup. Quoi. Franchement, non, mais sérieux, c'est une affaire. Ça marche.
Non, mais moi, je vais faire une application à des impôts. Les gens pourront payer leurs impôts directement sur l'application. Ça arrivera sur mon compte en banque. Quoi. Je suis sûr que oui. Je peux avoir 100 à 200 personnes comme ça. Quoi.
Oui, c'est sûr. Et puis après, t'es pas du tout emmerdé parce que ouais. les impôts, ils sont sympas. Ils vont pas aller te chercher. Voilà.
Après, il faudra éventuellement que je change de pays. Mais bon,
bon c'est rapide.
On va bien pour m'accueillir.
Dernière news avant de passer à la pause sponsor que Siegfried attend avec impatience
oui, et,
et aux news et rumeurs pour conclure l'émission. Le gouvernement américain, ça c'est une news qui me tient à cœur. Le gouvernement américain a demandé à RIM, donc les BlackBerry et Apple, de virer les apps qui indiquaient les zones, enfin les points de contrôle d'alcoolémie. Bon, on en parle régulièrement dans Upload, ces apps qui vous permettent de savoir où sont les pervenches, de savoir où sont les radars, de savoir où machin. Et moi, j'ai toujours un goût un petit peu amer dans la bouche quand on parle de ces trucs, parce que pour moi, c'est des apps qui servent à éviter que les gens se blessent ou blessent d'autres, tu vois. Donc, bon, les pervenches, c'est un petit peu autre chose, mais ça peut être un problème aussi. Et là, le gouvernement a effectivement demandé à BlackBerry de retirer l'app et à Apple. BlackBerry l'a fait. Apple, je crois pas encore, mais en même temps, pareil, s'il y a un compte Twitter qui annonce où sont les trucs, c'est le même problème. C'est difficile à gérer, mais je crois que l'app, ça devient. Enfin, je sais pas si c'est légal de demander de. Tu vois, s'il y a une base légale pour ça, mais je comprends quoi. C'est un peu limite quand même. Non, ça vous.
Moi, c'est pas vraiment étonnant qu'ils aient demandé effectivement à ce que ce soit retiré quoi.
Mais en même temps, alors si je prends l'approche inverse de la mienne, c'est pas le gouvernement qui doit décider quelles apps sont valables et quelles apps ne sont pas valables. Tu vois, sinon.
Faut voir. À mon avis, il doit bien avoir une loi quelconque qui doit s'opposer au fait. Ouais. Encore que c'est de la prévention. J'en sais rien. Honnêtement, ouais. C'est un peu compliqué comme débat. Mais bon.
Oui, c'est ouais. un peu comme les applications liées au radar en France. Ça crée toujours. Enfin, on sait jamais où se situe la légalité.
Ouais, ouais, exactement.
En plus, c'est pas facile quand tu roules bourré de regarder ton application pour voir s'il y a un radar qui va te catcher. Quoi.
Oui, c'est ça. Donc, il vaut quand même mieux avoir l'application ouais. pour savoir si on va te contrôler pour si t'es bourré, pour pouvoir checker ensuite l'application pour savoir si on va te flasher au radar.
N'empêche que c'est la loose, quoi. Est-ce que tu regardes ton application pour pas prendre un radar et quand t'es bourré, tu te prends un arbre, quoi.
Exactement, oui. Bon, heureusement qu'on garde le sourire. Et bah justement, à propos de sourire, c'est le moment qui fait sourire tous les auditeurs de plaisir, oui. puisque c'est le message du sponsor. En fait, vous le savez, notre sponsor, c'est Numéricable. Et Numéricable, ils ont une chose importante à vous dire, c'est que les débits, c'est important. Et certains opérateurs vous disent qu'ils ont des débits élevés, mais ils vous parlent parfois du débit ATM, alors que Numéricable vous parle du... J'ai failli dire numérical. Numéricable vous, dit, vous parle du débit IP. Et qu'est-ce que c'est que le débit IP, en fait ? C'est le débit qu'on obtient au DSLAM. Le DSLAM, c'est le centre de connexion qui est pas loin de chez vous. Et entre ce DSLAM et chez vous, il y a une déperdition. Le débit du DSLAM, je dis n'importe quoi. Les autres vont vous donner le débit qu'il y a au DSLAM. Et avec la déperdition, ça peut être une déperdition jusqu'à 25%. En fait, votre débit effectif va être moins élevé que ça. Alors que Numéricable, ils vont vous parler du débit que vous avez vraiment chez vous. C'est le débit IP. Et ce débit est plus stable et il est au maximum, souvent plus élevé que le débit qu'on vous donne quand on vous parle uniquement du DSLAM. DSLAM. Donc, c'est une garantie de débit plus important et c'est quelque chose à savoir quand on va faire son choix de FAI. Donc, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Numéricable en général et tester votre éligibilité pour avoir les débits les plus élevés avec la fibre, vous pouvez aller sur le site de Numéricable et notamment en passant par le site nowatch.net. Vous cliquez sur la bannière qui est dans le petit carré au-dessus, en dessous du carrousel et vous arrivez sur le site de Numéricable de notre part. Et donc, ils sauront qu'on vous a parlé d'eux. Et évidemment, ça nous aide particulièrement. Et en plus, ça vous aide aussi, puisque vous pouvez voir si vous avez désormais accès à la fibre par Numéricable, ce qui améliorera vos habitudes de surf, ça c'est garanti. Merci à eux. On passe à la suite. Qu'est-ce que c'est la suite? Attends, j'ai perdu ma fiche.
C'est important d'avoir un gros débit.
Tu noteras qu'on a été sage.
Oui, je note.
Oui, on n'a pas déconné.
Je sens qu'il y en a qui étaient en train de se mordre les lèvres. Alors, non, mais enfin bon, en même temps, Numéricable, je t'avoue que ceux qui ne connaissent pas le Captain Web ne savent pas de quoi on parle, mais ça m'avait fait bien marrer. Et je crois que ça les a fait marrer aussi chez Numéricable.
Oui, je crois, on a eu des retours. Effectivement, ça avait bien fait rire. Je ne sais même plus quand c'est qu'on avait fait ça, c'est les fausses pubs Numéricable.
Exactement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'était la fausse pub Numéricable qui...
Numérique pour tous les meubles. Exactement.
En plus, elle marche hyper bien. Tu sais que de temps en temps, on m'envoie des messages sur Twitter, genre, je sais plus qui m'avait envoyé un message il y a quelques jours en disant oui, je vais aller voir la Numéricale si elle est disponible ou je sais pas quoi. Je dis ouais, elle est vachement bien. Mes meubles en sont équipés et tout.
En plus, on a un auditeur qui nous a apporté des vraies cales en bois.
C'est vrai.
Il avait marqué dessus à la main Numéricale. Et ça sert.
Pas mal. Donc, news et rumeurs. Alors là, il y en a un paquet, donc je vais aller assez vite. Et si jamais il y a un truc qui vous intéresse particulièrement, on s'arrête et on en discute. Ok ?
D'accord.
Et je vais en sauter quelques-unes parce que bon, Groupon Now, par exemple, pas la peine. Eric Schmidt, secrétaire du commerce aux US bientôt. Ça serait intéressant, mais bon, on n'a pas 12 000 choses à dire. Celle-là, je pense qu'il y a des trucs à dire. OMG, LOL, entre dans le dictionnaire Oxford d'anglais. Et alors, c'est important parce que la langue anglaise n'a pas une instance, comme nous en France, on a l'Académie française, mais la langue anglaise n'a pas vraiment une instance qui va décider des nouveaux mots et des mots qui disparaissent, ou plutôt juste des nouveaux mots. Et donc, le dictionnaire d'anglais Oxford fait un petit peu office de référence en la matière. Et ils ont intégré des mots comme donc OMG, oh my god, LOL, et le symbole du cœur, tu sais, I love New York, I heart, genre I heart Patrick. Maintenant, tu peux l'écrire et c'est valable.
Ils ont carrément intégré le symbole.
Oui.
Mais alors là ça va un peu trop loin, je trouve. Mais à quand le...
Guillaume met son veto. Écoutez, là, il faut être un peu sérieux.
À quand le MDR, alors à ce moment-là dans...
Il faudrait, du coup. C'est exactement ça. LOL, c'est MDR, en fait.
Mais est-ce qu'ils ont intégré What the Fuck et le WTF
Je crois pas.
Le RTFM.
Je crois pas. Je les ai
ça
pas
va
vus,
venir.
Mais c'est marrant, à cette occasion, on a appris par exemple que OMG, la première utilisation avait été datée à 1911, je crois. C'est dingue, hein.
Bah, c'est comme le robot, qui en fait est un signe qui existe
17,
depuis,
pardon, 17, 17.
Depuis la nuit des temps. Enfin, la nuit des temps, j'exagère peut-être un poil.
Mais... non, mais je te jure, attends, les Mayas, ils utilisaient leur petit arrobas pour se dire...
On a retrouvé des adresses e-mail AOL gravées dans les temps. J'ai des photos.
ouais, c'était... c'est quoi le serpent à plumes? Quetzalcoatl.
Avec le hâte, arrobas.
Ouais, c'est ça, hâte Quetzalcoatl. Pardon Guillaume, on n'arrête pas de t'interrompre. Faut que tu dises, non mais hé, les gars, laissez-moi parler, merde.
Non, mais je suis trop sérieux. Non, ce que j'allais dire, c'est que tant qu'on explique aux gosses ce que ça signifie OMG et LOL, finalement, tout va bien. Voilà, vous voyez, je suis trop sérieux.
Justement, ils ont le dictionnaire, donc maintenant ils sauront.
Ouais, bon. Mais là, ils vont trouver carrément OMG dans le dictionnaire, donc c'est...
Alors, ça veut dire qu'on peut écrire des articles avec... Enfin non, mais bon, disons qu'il y a plein de mots, ça ne veut
pas
forcément...
Le gosse, il est en train de faire sa rédaction, il met OMG dedans, il dit non, mais c'est dans le dictionnaire, c'est bon, j'ai le droit.
Oui, mais enfin, en même temps...
Et vous imaginez, au Scrabble, on a le droit de mettre...
Oui, ça, exactement.
Je suis sûr qu'il y en a qui l'utilisent, hein, honnêtement.
Ah bah, c'est clair, maintenant tu peux, c'est dans le dictionnaire.
Non, mais
juste au Scrabble, il n'y a pas le symbole cœur. Ça, ah, ça, oui. Il faudrait le rajouter.
Non, mais il faudrait que notre commission des terminations. Attends, comment c'est déjà ? Enfin, bref, l'Académie l'instance française qui s'occupe de ça fasse des vraies traductions des LOL, des WTF, etc. Quoi.
Ouais, oui, bah oui, c'est sûr. Bah justement, à propos de WTF, une news. Oh, je vais te laisser la dire, la suivante.
Sigrid. Ah, la meilleure news.
Je sais, je l'avais rajouté dans le document avant
oui,
que tu la mettes. Mais
je sais, je t'avais noté d'ailleurs, je t'avais mis. Ah, trop tard. Bah oui, évidemment, le XXX qui est enfin approuvé, donc l'extension des noms de domaine XXX, qui en plus fait un tabac, parce que je crois qu'ils ont. C'était tout, dans les 5 premiers jours, c'est 300 000 domaines qui ont été réservés. Et c'est pas des .com ou des .net, hein, c'est quand même, je crois que c'est 80 euros l'année et quelques, ou 80 dollars.
Ah donc, oui, c'est quand même un peu.
Voilà. Et donc, et après, il y a tout. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser, le point XXX, c'est pas forcément attendu avec impatience par les sites web de cul, qui, autant le dire, hein, on va parler de cul, qui ont peur de se retrouver dans une sorte de ghetto et d'être obligés à terme d'utiliser cette extension-là pour pouvoir bien être filtré par les logiciels, etc.
Bah oui, évidemment, parce que si, si on veut filtrer les contenus inappropriés dans une entreprise, par exemple, ou pour ses enfants, pour les moins de 18 ans, j'imagine que l'industrie du X ne va pas forcément vouloir parler aux petits-enfants non plus, mais les logiciels de filtrage sont hyper faciles à régler s'il suffit d'exclure tout ce qui se termine en .xxx. Donc pour moment, pour l'industrie du X, ça va parce qu'ils ne sont pas du tout confinés au .xxx, mais... peut-être qu'à terme. Et puis, oui, donc eux, ils ne veulent pas être filtrés, donc forcément, ça les arrange.
Mais
pas.
Vous voyez déjà, par exemple, jeudi dernier, il y avait un article dans Le Monde qui disait que l'Inde annonçait qu'ils allaient bloquer le XXX. Donc déjà, à ce niveau-là, il y a plein de pays qui vont décider que le XXX ne sera pas accessible du tout. Il y aura toujours des moyens, j'imagine, mais voilà, ça sera vraiment bloqué dans certains pays. Et quand même, cette extension, c'est une arlésienne de plus de 5 ans. On nous l'annonce, moi j'ai l'impression qu'on nous l'annonce depuis presque 10 ans, quoi.
Et, ça fait longtemps qu'on entend parler. Ouais.
Voilà, et le fait que ça arrive enfin, j'imagine que, bon, pour l'industrie pornographique, c'est pas forcément une bonne nouvelle, mais bon, c'est quand même une échéance heureuse par rapport à ceux qui en voulaient.
Oui. Et entre parenthèses, c'est le début donc des noms de domaine, des TLD, des Top Level Domain Name, donc qui ça veut dire qu'on risque d'avoir, on en avait déjà parlé de ça aussi, une extension point Captain Web, ça serait possible quoi, à terme.
Ouais. Je crois que les chiffres annoncés c'était de l'ordre de 800 000 euros le ticket, un truc comme ça pour les extensions personnalisées.
Si cher que ça ?
Ah ouais, c'est les extensions personnalisées, les points, par exemple OVH a déjà prévu d'acheter le sien, donc un hébergeur français très connu, et ben un point OVH par exemple, la société qui veut s'acheter ça, c'est des centaines de milliers d'euros je crois, à vérifier, mais c'est pas encore fait il me semble.
Donc pour point Captain Web, ça sera pas pour tout de suite, faut faire l'app des impôts Captain Web vite fait quoi.
Voilà exactement.
Il y a Paris qui veut son point Paris aussi depuis longtemps.
Oui, tout à fait, ouais. Et ça aussi, bah, c'est la même chose, c'est comme ils vont devoir l'acheter à part. Mais ça peut être intéressant, si tu veux le point Paris, par exemple. Moi, je sais que pour avoir un commerce à Paris, ce sera un truc que j'achèterai. Quoi.
Ça sera hyper réglementé, j'imagine.
C'est sûr.
Oui, oui c'est sûr, ça va être... je ne sais pas si c'est la mairie de Paris qui chargerait à ce moment-là de régler, sûrement.
Sans doute. J'espère en tout cas qu'il y aura un petit peu de vérification pour que ça ne soit pas comme c'est le cas aujourd'hui avec les .com, par exemple, mais que pour obtenir un domaine de ce type-là, il y ait une justification, quoi.
Ce sera
n'importe qui ne puisse pas récupérer justement point Paris ou point, je sais pas moi, Canon.
Il y a déjà des règles hyper drastiques, par exemple pour La Réunion, c'est le point RE et il faut absolument être résident à La Réunion pour avoir le droit d'acheter un point RE.
Il y a plein de levels comme ça, comme les points asso.fr, etc., qui demandent beaucoup, beaucoup de règles. Déjà, le point .fr, il n'a pas été libéralisé il y a si longtemps. Il y a encore 2-3 ans, c'était un bordel pas possible pour pouvoir en récupérer.
Je l'ai récupéré sans problème il y a. Enfin, moi, Azeroth.fr, c'était il y a 4 ans et demi, 5 ans bientôt, et c'était facile. Hein.
Parce que, par exemple, OVH, ils étaient passés, ils achetaient, en fait, le nom de domaine, ils permettaient de l'acheter en .fr, mais ils le mettaient à leur nom. Et après, quand ça a été totalement ouvert, ils l'avaient repassé, ils achetaient.
Ah, c'est possible. Oui.
Et il y a 8 ans à peu près, il fallait aller à la préfecture pour acheter un .fr. Je me souviens de ça, il fallait aller à la préfecture, on avait acheté un .fr, on s'occupait d'une communauté, et voilà, c'était la préfecture.
En plus, j'imagine bien le truc, la scène, tu vas à la préfecture, oui bonjour, c'est pourquoi ça serait pour acheter un nom de domaine .fr.
Prochaine.fr, je suis bouché.
Gérard, il y a un type qui vient me parler de... Bon, je vais arrêter avec les accents, je vais encore me faire engueuler.
Non, mais on déconne, mais c'est en Chine, je crois, que maintenant, tu es obligé, quand tu as un site web, d'aller, je ne sais pas si à la préfécture ou quoi, ou à la mairie, pour aller te déclarer. Quoi.
Oui, bah oui, non, c'est la Chine.
Ouais. Ah bon, c'est la Chine. Quoi. En Corée du Nord, je ne crois pas que tu puisses encore réserver ton...
Ça, oui, non, en Corée du Nord, ils ont un nom, c'est quoi le nom de domaine de la Corée du Nord?
CN là.
Non, c'est la Chine, ça, CN.
Ouais.
Corée du Nord, je ne sais pas. Je ne suis même pas sûr qu'ils en aient, en fait.
Oui, oui. Bah oui.
Ouais.
Bon.
Je crois que pour la Corée du Sud, c'est KR, voilà.
Oui, exactement. Exact. KN, peut-être ? Je ne sais pas. Bref. Et j'irai pas voir, j'irai pas tester, parce que la Corée du Nord, c'est pas la peine. Autre news. Allez, on accélère. Qu'est-ce qu'il y avait ? Ah oui, Facebook Web Search. Facebook serait en train de tester la possibilité de chercher sur le web, d'avoir une petite barre de recherche en haut du site pour rechercher sur le web. Et là, quand Google a dû entendre parler de cette nouvelle, je pense qu'ils se sont fait dessus, parce que c'est une petite news comme ça que je donne rapidement, parce que c'est pas confirmé. Enfin, elle était en test, on sait pas ce qu'ils vont en faire, mais c'est énorme. C'est peut-être la plus grosse news qu'on ait de toute l'émission. Mais bon.
Alors, faut voir, c'est quoi, j'ai pas du tout vu cette news-là. C'est quoi le but? C'est d'utiliser un moteur de recherche qui existe déjà, ou c'est qu'ils développent leur propre moteur de recherche?
On sait pas. Mais imagine, par exemple, parce que Microsoft est déjà largement impliqué dans Facebook, imagine qu'ils utilisent Bing pour faire des recherches à l'intérieur de Facebook sans que tu aies besoin de sortir sur Google pour faire ta recherche.
Ouais.
C'est énorme. Sachant que, pour ceux qui tout le monde le sait, mais que c'est l'argent de la recherche qui finance une énorme partie du web aujourd'hui, et notamment Google. Donc... autre info, alors on avance, au niveau de la recherche, Yahoo Search Direct est arrivé, c'est un concurrent, enfin une réponse de Yahoo à Google Instant, qui avait été annoncé en grande pompe il y a quelques mois déjà, donc comme quoi, c'est vrai, moi je commence à, enfin aujourd'hui je me suis habitué comme on le pensait à Google Instant, donc c'est pas mal.
Une fois que tu es dessus, que tu n'as plus le choix, ouais, tu au final, c'est toujours la même chose. Hein.
C'est juste un peu un enfer pour les référenceurs, parce que du coup, ils ne savent plus très bien comment ça se passe, quels sont les réflexes des gens, et en fait, les résultats qui arrivent en tête n'arrivent en tête que pendant un court instant. Donc du coup, ça fausse un petit peu toutes les règles des référenceurs.
Ouais. Oui, forcément.
Mais c'est encore dédié ça à ceux qui sont connectés sur leur compte Google, hein. C'est pas encore ouvert à...
Ah, c'est possible, oui. Ah, mais moi je suis
toujours connecté, ouais, aussi.
Ah oui, mais oui, complètement. Moi, je suis complètement amoureux de Google. C'est marrant parce que je reviens à l'histoire des commentaires sur le blog. On a eu une discussion très sympa sur le blog de NoWatchNet. Franchement, allez-y, on discute, c'est vraiment intéressant. Mais il y en a qui disaient le truc récurrent, fanboy Apple, machin, c'est fatigant. Vraiment, il y a des trucs que j'aime chez Apple et il y a des trucs que j'aime chez Google, en l'occurrence, sur ce genre de trucs. Moi, je suis sur Gmail, Google Docs, Reader, je suis connecté sur Google, mais tout le temps, quoi. Si demain Google change un truc, je suis. Par exemple, s'ils demandent de payer pour utiliser leur service, moi, il n'y a pas de problème, je sors le portefeuille tout de suite, quoi.
Est-ce que tu as encore un compte Google Wave ?
Oui, bien sûr, je m'en sers plus du tout, mais je l'ai quand même. Non, là, j'avoue que Google Wave et Google Buzz, c'est un petit peu les moutons noirs, quoi.
Comme quoi, même Google se plante. Ah mais ouais, c'est un truc intéressant à faire, je m'étais promis de le faire un jour, c'est d'essayer pendant une semaine de ne plus du tout utiliser Google, ni ses services.
Ouais.
Et là, franchement, je pense que tu découvres d'autres choses, quoi.
On a de belles surprises avec Bing.
Oui, il paraît que c'est bien. Captain, oui. Fais le test, vas-y, je te suis. Hein, moi, je te laisse.
Je vais être triste, hein, parce que franchement...
Oui, Guillaume, tu disais ?
Oui, ne serait-ce que l'équivalent de Google Maps par Bing, on a de belles surprises parce que moi, j'ai fait un voyage en Islande l'année dernière, en fait, et il se trouve que ce n'était pas du tout cartographié par Google Maps. Aujourd'hui, ça l'est, mais l'an dernier, ça ne l'était pas. Et en fait, par contre, sur le service de map de Bing, ça l'était complètement. Il y avait toutes les routes, c'était... Voilà, donc il y a des petites différences comme ça qui peuvent apporter beaucoup.
D'accord. Entre autres, quand tu fais une recherche sur Bing, la loutre en plein écran, c'est vraiment super.
Mais enfin, Bing est super performant, hein. Ça, c'est clair.
Tu vois, j'ai même pas le réflexe d'essayer, c'est con en fait.
Non, mais c'est vraiment une question d'habitude. Le truc, c'est que quand t'as un marché qui est mature, il faut qu'un concurrent arrive en apportant plus que ce qui existe déjà. Et Bing a visiblement réussi à arriver à peu près au niveau de Google pour les résultats, mais ils font pas suffisamment plus pour pousser les gens à changer, à aller y voir. Ils sont très bien, mais...
Mais là encore, pour les référenceurs, c'est vraiment chaotique, Bing, parce que, par exemple, on a un blog, on a des billets, on souhaite que les billets soient référencés sur Bing. On se rend compte que Google va les attraper en l'espace de 2 heures, 3 heures, ouais, maximum une journée. Et sur Bing, il y a des articles, jamais ils vont être indexés. Ouais. Donc du coup, pour les référenceurs, c'est encore une boîte noire qu'on ne saisit pas vraiment comment ça marche.
Pour les référenceurs, au final, c'est plus intéressant qu'il n'y ait qu'un seul moteur de recherche.
Ouais, finalement.
Ah bah exactement, les référenceurs sont ravis, oui.
Ouais, pour les annonceurs aussi, parce qu'au final, moi, je fais des campagnes de pub sur Google. Si on devait faire les campagnes de pub sur deux moteurs, à la fois sur Google et Bing,
ah oui, c'est sûr.
Waouh,
ouais.
Wow. Au secours, quoi.
George Hotz, les plus fans d'entre vous sauront de qui il s'agit. C'est le jeune homme qui a craqué la protection de la PlayStation. Il aurait visiblement... Alors, il y a eu une nouvelle selon laquelle il aurait fui en Amérique du Sud avant... Enfin, qui a été répandue la semaine dernière. Et puis, il a répondu en disant « Non, j'ai pas fui. Je suis descendu en vacances. C'était prévu depuis des mois. Je vais pas, à cause de cette histoire de jailbreak, perturber toute ma vie. Je suis allé en vacances, c'est tout. » Le truc, bon, alors oui, effectivement, le truc, et pourtant je suis fan de Joe Hot, hein, c'est un mec, on avait parlé de son rap il y a quelques semaines, c'était excellent. Mais bon, d'un autre côté, il a assuré qu'il n'avait jamais eu de compte PSN, donc le PlayStation Network, parce que s'il avait un compte PSN, alors il aurait signé, il aurait donné son accord aux conditions d'utilisation, qu'il aurait ensuite, il serait allé à l'encontre en faisant le jailbreak, et donc lui, il a dit non, moi j'ai jamais eu de compte, donc je suis allé à l'encontre de rien. Il se trouve qu'en fait, il en a un, en tout cas, il semblerait qu'il en ait un. Bref, c'est pas très clair cette histoire.
Et en vacances avec Julien Assange au bar.
Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
Ils se prennent des rejoindre Guantanamo avec
Caipirinha sur la plage en attendant le FBI. Twitter penserait à ramener Jack Dorsey, qui était le créateur de Twitter. Peut-être qu'il pourrait revenir dans la boîte. On ne sait pas encore. Une histoire de taxes. Twitter aurait obtenu une exemption de taxes de la ville de San Francisco. C'était une histoire fleuve qui durait depuis des mois, parce que la ville de San Francisco veut étendre les taxes locales à l'endroit où est installé Twitter. Et Twitter dit, bah oui, non, mais vous êtes gentil. Si ça se passe comme ça, nous, on va à un autre endroit où il n'y a pas de taxes. Et donc, ça pose la question de... Enfin, nous, on verrait ce débat de France. Enfin, quand on voit ce débat de France, je suis sûr que c'est hallucinant, quoi. Parce que pour nous, c'est même pas la question. La question se pose même pas, quoi.
Ouais. Nous, on raque à fond. Voilà.
Ensuite, il y a Google qui a sorti discrètement un magazine trimestriel en ligne, Think Quarterly en Angleterre, thinkquarterly.co.uk. Je vais vous dire, je ne l'ai même pas vraiment lu, mais si vous voulez y aller...
Je n'étais même pas au courant, tu vois.
Bah, j'ai feuilleté ça. Bon, moi, forcément, j'adore, parce qu'il y a énormément d'infographies. C'est très
c'est un
beau.
Un peu dense, hein, quand même.
Oui. Mais c'est très beau. Vraiment, il y a un énorme travail de graphiste. C'est vraiment très agréable à regarder. Et il y a énormément de graphiques, énormément de chiffres, parce que Google adore ça. Ouais. Et du coup, ça m'a beaucoup plu.
Et en plus, l'interface est super bien foutue, quoi. C'est sur la page web, elle peut passer en plein écran. J'imagine qu'elle sera facilement lisible sur tablette aussi. Et c'est peut-être un galop d'essai pour des choses plus importantes à l'avenir.
Oui, je trouvais que c'était une belle performance pour Google, qui habituellement ne se distingue pas par l'esthétique. Là, pour le coup, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable à regarder.
thinkquarterly.co.uk, think comme réfléchir. Motorola préparerait son propre système d'exploitation pour mobile, ok, encore un. Et bon, il y a plein d'autres news, on peut pas tout faire vraiment. Je vais finir avec une nouvelle qui va nous redonner le sourire, parce qu'on a parlé de choses pas très réjouissantes quand même dans l'émission. Et c'est soit un coup marketing, soit une vraie gentillesse de la part d'Apple. Vous avez entendu cette histoire avec l'iPad 2 que le type avait ramené?
Non.
Ok, alors je vous en donne la primeur. C'est un monsieur qui était allé acheter son iPad 2 au moment de la sortie dans un Apple Store, tout content, il va l'acheter, il fait la queue, il le paye, il le ramène chez lui, il était super content. Et il revient le lendemain à l'Apple Store, où il le renvoie, je ne sais plus s'il le renvoie ou il le rend, et avec un post-it sur lequel il était écrit « Wife said no », ma femme a dit non. Donc, hyper déçu, évidemment. On peut l'imaginer tout penaud qui ramène son truc parce que sa femme... En même temps, ça, on peut le comprendre. Hein, tout le monde n'a pas les moyens de mettre 600 $ dans la bestiole. Et en fait, cette histoire serait remontée jusqu'aux oreilles de certains haut placés chez Apple qui sont pris de tendresse pour ce monsieur et ont renvoyé l'iPad avec un petit post-it sur lequel il a été écrit « Apple said yes » et ils l'ont renvoyé au monsieur directement.
Par contre, ils ne l'ont pas remboursé.
Si, parce que quand il a renvoyé son truc, c'était pour le rendre, pour se faire rembourser, tu vois, c'est le retour du produit.
Ouais, je sais.
Donc, c'est mignon comme histoire, non ?
Bah ouais, si j'y avais pensé en premier, j'aurais peut-être eu. C'est sûr, il est même pas marié.
Oui, parce que maintenant, le truc, c'est que tu peux réessayer, mais à mon avis, ça marchera pas de
bah
fois.
Bah ouais, c'est dommage.
Ouais, c'est clair. Bon, eh ben messieurs, on a abattu une série de sujets quand même. J'avoue, je préfère quand il y a genre 5 sujets, un sur Facebook, un sur Apple, un sur Google et c'est terminé quoi.
Et encore, t'en as pas mentionné la moitié. Hein,
ah oui, non mais là il en reste. On aurait pu parler de la propagande des réseaux, de l'armée US sur les réseaux sociaux, de Facebook qui efface 20 000 comptes d'enfants de moins de 13 ans par jour. D'un film, d'un vrai film qui sort en DVD et en BitTorrent en même temps.
D'un qui rachète tes mobiles.
Ouais, ben, oui, voilà.
Oui. Trois heures de discussion.
Oui, ça c'est très très long aussi. Un réseau de botnets de spam qui a été attaqué par le FBI et Microsoft. Il y aurait vraiment de quoi dire. Mais vous savez quoi ? Plutôt que ça, on va plutôt écouter nos deux invités nous dire... Guillaume, t'as une statosphère live ou on enchaîne avec...
Je peux faire une petite statosphère, il y avait un sujet qui m'intéressait, mais si on n'a pas le temps...
Si, on peut prendre une minute, mais à ce moment, on ne peut pas trop en discuter, hein. C'est comme en vrai, c'est juste toi qui parles, mais par contre, il nous faut la musique, hein.
Ah non,
tu l'as pas.
Je sais pas.
Attends, c'est obligatoire.
Oh putain, je suis pas dans le ton, c'est horrible.
Ah non, c'est bon, vas-y. Pas là-dessus. En fait, j'ai rien à lire, mais je voulais. En fait, il se trouve que c'était une news qui était dans la liste et je voulais juste revenir sur la nouvelle génération de Xbox serait pour 2015. Je voulais juste dire qu'en fait, parallèlement à ça, le Kinect. Est rentré dans le livre Guinness des records parce que c'est l'objet technologique qui s'est le plus vite vendu en 2 mois. C'est-à-dire qu'il a atteint, je crois, 8 millions d'unités en seulement 60 jours, entre le 4 novembre 2010 et le 3 janvier 2011. Et donc, ça représente une moyenne de 130 000 unités par jour. Et c'est énorme. C'est dans le Guinness. Et ça
c'est
montre à quel point. Ouais, voilà. Et en fait, le Kinect a battu évidemment tous les iPhones, a battu l'iPad, a battu toutes les consoles. Donc là, visiblement, le Kinect, ça a vraiment été un très gros carton. Et là où je voulais faire un lien avec la news que tu avais mis dans le process, c'est que la nouvelle génération de Xbox serait prévue pour 2015. Ce que je trouve hallucinant maintenant, c'est que les générations de consoles durent de plus en plus longtemps. Oui. Et que la Xbox 360 a déjà 5 ans ou 6 ans. Et que
10
si
ans
on...
donc pour... Pour
voilà,
une génération
si on considère,
console,
voilà, 10 ans pour une génération de consoles, c'est vraiment énorme. Quand on repense à la Super Nintendo ou à la N64 ou à la Mega Drive, ça durait beaucoup moins longtemps.
C'est vrai.
Bah, les prix de développement sont tels aussi que maintenant, ils doivent peut-être prendre plus de temps pour rentabiliser ça, quoi.
Ouais, il y avait un débat très intéressant dans Geek Inc. C'était le dernier, je crois, où il parlait d'une citation d'un monsieur de THQ. Ils avaient débattu là-dessus. J'aurais des... Enfin, ils étaient passés un petit peu à côté de certains trucs, j'ai trouvé, mais... Bon, c'est un débat super intéressant, mais ça prendrait bien trop longtemps pour en parler. Donc, par contre, Siegfried, en fait, je me rends compte que c'est toi qui avais parlé qui voulait parler du gouvernement qui mobilise les 1,4 milliard d'euros pour l'innovation numérique.
Ouais, j'avais ajouté ça dans les news, c'est assez intéressant. Et alors, j'ai plus le détail sous les yeux, du coup. Ah. Mais en gros, on avait le détail de là où elle allait être dépensée. Donc, c'est 1,4 milliard, si je me souviens bien.
C'était ça, oui.
Ouais, exactement. Donc beaucoup, si je me souviens bien, pour l'éducation entre autres. Mmh. Et puis voilà. Et puis je sais plus honnêtement.
Non, mais c'est intéressant. Effectivement, c'est un truc. Non, mais c'est un truc important de se dire que le gouvernement n'oublie pas ce secteur de l'économie et que il y a des efforts qui sont faits. Et c'est hyper important, quoi.
Il y avait le développement du très haut débit et la numérisation du patrimoine culturel. C'était ça qui était essentiellement dans le budget.
Eh ben franchement, c'est deux domaines qui sont essentiels, et c'est hyper important de le faire. C'est
donc là, comment ça va finir aussi. C'est une chose qui me fait peur, si tu veux, c'est de voir.
Ah oui, bien sûr.
Si vraiment au final, il y aura des résultats qui seront.
Tu sais, il y a eu une vraie volonté gouvernementale d'installer le haut débit en France, et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui ça se fasse pas avec le très haut débit et que le patrimoine culturel.
J'espère, ce serait une bonne nouvelle. Ouais.
C'est sûr que c'est là. Je pense qu'on sera tous d'accord. C'est hyper important de s'occuper de ce genre de choses. Bon, bah écoutez.
On va demander peut-être 1 milliard ou 2 pour le podcast.
Oui, voilà, non, mais attends, même pas 1 milliard ou 2. Moi, je dis, allez, 150 millions, ça devrait suffire. Oui. Ça veut dire que, d'une part, tu peux t'acheter ton domaine .captainweb, et puis c'est bon, on est parti.
Ouais.
Bon, bah justement, à propos de Captain Web, Mister Siegfried, où est-ce que les gens peuvent-ils te retrouver sur l'internet du cybernaute quand t'es pas dans le rendez-vous avec?
Ils me retrouvent partout, hein, comme d'habitude. Donc Twitter, Captain Web, tout court. Et puis sur le site web captainweb.net, donc où il y a tous les podcasts qu'on fait chaque semaine. Et le mardi soir en live, donc dès demain pour ceux qui écoutent là en live, 23h30 à minuit, quoi, le temps qu'on démarre et qu'on règle tous les problèmes qu'on a chaque semaine.
Vous suivez Captain Web sur Twitter et il vous en informe quand ça commence.
Avec plein d'autres superbes news.
Mister Guillaume.
Moi, vous pouvez me retrouver sur le compte Twitter Statosphère, sans accent sur le E. et puis sur mon blog statosphère.fr, je parle de statistiques. Et puis je voudrais juste donner un petit coup de pouce à une émission de radio qui s'appelle, enfin une chaîne de radio qui s'appelle Everyone. Ils ont une émission qui traite de technologie qui s'appelle Tech and More, dans laquelle je suis invité de temps en temps. Et cette émission, vous pouvez la retrouver donc sur le web en streaming. C'est tous les jeudis soirs à 18h. Et il suffit d'aller sur everyone.com. Evry comme la ville d'Evry, EVRYONE.com. Voilà.
EVRYONE.com. Oui, parce que moi j'avais tapé Everyone. Donc forcément.
Voilà, Evry comme la ville d'Evry. Et d'accord. En fait, voilà, l'émission s'appelle Tech and More.
Ok, mais écoute, je la connaissais même pas. Je vais aller écouter
plus.
Ça.
J'irai écouter.
Merci Guillaume. Avant de vous quitter, je vais lire un commentaire sur iTunes. Hop, alors attends. Ici. Au top, bonne humeur garantie, nous dit Saint-Pied-Carré, je sais pas, Saint-Pied-Carré. Oui, c'est difficile. J'écoute ce podcast depuis un bon moment maintenant, c'est mon instant détente de la semaine, avec également Upload, l'autre podcast de Patrick, que j'écoute. Si vous avez besoin de passer un agréable moment et d'oublier le stress de la semaine, écoutez, vous serez au courant de toute l'actualité tech, tout en ayant de nombreux éclats de rire lorsque les animateurs font des petites blagues ou se lancent de gentilles vannes. Excellent pour le moral, à écouter sans modération. Bise aux animateurs. Eh bien écoute, Saint-Pied-Carré, merci aussi. Bise aussi à toi et merci de ce commentaire. Si comme lui, vous voulez laisser un commentaire, vous pouvez le faire sur iTunes. Vous recherchez le nom du podcast. Vous allez sur la page nowatch.net qui est assez joli d'ailleurs, vous verrez ça, je vais pas en dire plus, et vous pouvez laisser un commentaire ou alors sur le blog nowatch.net, j'en parlais pendant l'émission et vous y retrouverez toutes sortes d'autres émissions intéressantes, qu'elles soient audio ou vidéo, par exemple Techno IT, qui est une émission plutôt destinée aux professionnels de l'informatique, et donc ça pourra vous permettre de briller dans vos réunions, parce que vous serez au courant de toutes les évolutions l'industrie tech IT pro, et ça c'est une émission qui est vraiment intéressante quand vous êtes dans ce domaine. Pour ma part, c'est sur patrickbeja.com. Et sur nowatch.net et sur Twitter, NotePatrick, etc. Bref, vous connaissez, tous les liens sont là-dessus. Et c'est sur ces informations essentielles que je vais remercier mes co-animateurs et dire à tout le monde et à la chatroom bonne semaine et à la semaine, non, même pas la semaine prochaine, à dans 2 semaines pour un prochain épisode. Merci à tous et ciao, ciao.
Merci Patrick, ciao.
À bientôt.
Bah voilà, c'est bien passé.
Ah bah écoute, ça a duré combien de temps finalement?
1h30, c'est correct.
1h30. Ouais. T'as vu, on a du public en plus.
Siegfried, il y a plein de gens sur le chat qui disent que ils disent que ça était beaucoup trop propre comme émission.
Ouais.
Ils auraient aimé que tu t'en mettes une couche ou deux en plus.
Bah c'est vrai que normalement on a un taux d'insultes à la minute qui est beaucoup plus élevé que ça dans la période.
Ah ouais, non mais attends.
Je me suis tenu quand même.
Mais je trouve que tu t'es parfaitement intégré. De toute façon, nous on est des bisounours.
Je sais m'adapter aux situations.
Mais oui.
Bon, en fait, c'est mes collègues qui me rendre con, quoi.